Bonsoir tout le monde, bienvenue et bien sur ce premier épisode de l'émission Chromebook on Live. J'espère que vous m'entendez, en théorie ça devrait être bon, tout a été réglé. On est actuellement en live sur YouTube, donc pour cette première émission, avant toute chose, j'aimerais quand même vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour l'année 2021, comme j'aime bien le dire, eh bien la santé avant toute chose, hein, et le reste viendra très très naturellement. Donc avant de poser un peu les bases et de vous expliquer un peu le concept de l'émission, j'aimerais me présenter, en tout cas pour ceux qui me connaissent pas, même si je suppute que pour ceux qui sont connectés, effectivement vous avez dû suivre un peu mes réseaux sociaux. Donc je suis Fred, je suis le fondateur du site chromebooklive.com, qui je peux le dire, est devenu une référence en France autour des actualités Chromebook et Chrome OS, et notamment des tests de Chromebook. Et à côté de ça, j'ai aussi évidemment la chaîne TechLiveFR sur laquelle nous diffusons actuellement. Et je suis, eh bien, en charmante compagnie, je suis en compagnie de notre national, international, que dis-je, Romain. Je te laisse te présenter, Romain.
Merci à toi. Bonne année déjà à tout le monde. Déjà pour commencer, bonsoir à tous ceux qui regarderont le live en direct, la rediff et aussi peut-être en audio. Et donc, comme l'a dit Fred, moi c'est Romain, donc je suis rédacteur pour Chromebook Live. Donc j'écris quelques petits articles, je l'aide de temps en temps, du mieux que je peux, en tout cas avec le temps que j'ai. Sinon, je suis originaire du Nord, je fais un peu mon CV basiquement. Je suis originaire du Nord, j'habite à Lille. Et je suis un grand amoureux de tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui touche à Google, donc de toute façon je suis au bon endroit du coup. Et j'aime beaucoup les jeux vidéo, c'est pour ça que à côté de tout ce que je fais pour Chromebook Live, je stream sur Twitch. Et donc c'est vraiment mes deux grandes passions. Et à côté de ça, forcément, je gagne pas d'argent en faisant des rédactions d'articles, pas encore. Hein, Fred, j'attends mon salaire. Ah,
écoute, si ça arrive un jour, peut-être. On est loin de ce cas-là, on est loin de ça. Hein.
Carrément. Mais du coup, à côté, je travaille pour une grande enseigne de distribution spécialisée. Je dirais pas le nom, mais je pense qu'il y en a qui le savent déjà. Et donc, ils le découvriront au fur et à mesure, je pense. Mais voilà, ouais. C'est un peu, je garde ma petite part de mystère, on va dire.
Voilà, on essaiera de le découvrir un peu au fil des différentes émissions, des différents épisodes. Ça peut être effectivement un teasing, ou en tout cas un petit easter egg, où il faudra effectivement, on lâchera peut-être des informations en cours d'émission. En tout cas, bienvenue pour cette nouvelle émission, alors c'est pas forcément un concept, mais en tout cas ça peut être considéré comme un concept, on va dire, dans l'univers des Chromebooks. L'idée, c'est de vous proposer, eh bien, une fois par mois, une capsule vidéo live pour vous résumer un peu l'actualité autour des Chromebooks, autour des features de Chrome OS et plus largement autour de Google Stadia, parce qu'effectivement on a un Romain qui est gamer, je le suis également, on adore ça, et puis on est des gros passionnés, et pour ceux qui me suivent, je pense que vous avez déjà compris sur la partie Chrome OS. Donc voilà, c'est pour vous éviter finalement d'aller, je ne dis pas de ne pas aller sur chromebooklive.com bien évidemment, mais en tout cas de peut-être faire le travail autrement de veille technologique. On fait ça en une heure dans la bonne ambiance, en plus on est sur YouTube avec la possibilité d'accéder au chat et d'échanger avec la communauté, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. À côté de ça, évidemment, je vais extraire aussi l'audio. J'ai pas encore fait l'exercice, hein, c'est suite à ce premier épisode qu'on va voir comment ça fonctionne l'histoire de podcast, mais l'idée effectivement c'est de le décliner sous format podcast pour pouvoir l'écouter en voiture. Je ne dirais pas en scooter parce que je me suis déjà fait reprendre là-dessus dans les commentaires. Effectivement, ça peut être toléré par la police, mais effectivement en soi c'est évidemment interdit. Donc je pense que, enfin, en termes de structure de l'émission, l'idée c'est d'abord de commencer avec une thématique, hein. Donc on va y venir, ensuite basculer sur les activités Chromebook, Stadia, et on fait une petite session entre guillemets, questions-réponses à la fin avec le chat. L'idée c'est d'interagir un peu ensemble. Donc l'idée c'est de tenir dans une heure, ce qui va être peut-être un peu compliqué pour cette première
ça
fois.
Ça risque d'être délicat, effectivement, je pense.
Donc, c'est, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Romain. Non, on va essayer de tenir. De toute façon, ça va être la première émission qui va nous permettre de bien nous positionner, de bien nous équilibrer. Donc, en première thématique, on va se poser la question, eh bien, pourquoi aujourd'hui acheter un Chromebook. C'est la première émission, donc je pense que c'est peut-être important de rappeler, de bien poser les bases hein, pour ceux qui vont découvrir cette émission et démarrer dans l'aventure Chrome OS. Mais avant toute chose, donc, c'est quoi en fait finalement un Chromebook ? Bon, je pense que pour ceux qui sont connectés, vous connaissez déjà un peu l'ordinateur. Mais l'idée, c'est un PC. Un PC, c'est pas forcément lié à uniquement le système d'exploitation Windows. Un PC, c'est un personal computer où effectivement, on peut embarquer un système d'exploitation, qu'il soit Windows, Linux ou bien macOS. Donc, de base, un Chromebook, c'est un ordinateur portable avec un système d'exploitation conçu par Google, qui se veut être sécurisé, qui se veut être très rapide parce qu'il est light et parce qu'il est surtout centré autour d'une expérience utilisateur orientée vers le cloud. Donc ce qu'aime bien dire Google, effectivement, c'est qu'on s'adresse à des cloud users, donc à des personnes qui vont utiliser principalement Internet pour faire ses tâches du quotidien, qu'elles soient liées au divertissement, comme aller sur Facebook, regarder des vidéos sur YouTube, mais même également des usages plutôt orientés professionnel, et ça, enfin, moi je le ressens en tout cas dans le monde de l'entreprise, et vous seriez étonné de savoir que effectivement c'est quelque chose qui se développe beaucoup, beaucoup en France, et vous verrez qu'il y aura effectivement de belles surprises sur le marché. Donc, c'est un système qui est sécurisé, comme je disais, rapide parce qu'effectivement on va pas solliciter tant de puissance pour un usage cloud, et donc finalement vous allez avoir un matériel qui va être plus ou moins peu coûteux, bien qu'effectivement, on commence à avoir des gammes de produits très premium et qui peuvent se rapprocher d'un prix environnant les 1000 euros, si je dis pas de bêtises, et il y en a des belles. Il y en a des belles du côté d'HP, de Dell, c'est assez rigolo comme positionnement. Mais du coup, j'en profite, étant donné que Romain est notre invité et va m'aider du coup à animer cette émission, je vais te poser cette question suivante. Pourquoi tu as basculé sur Chrome OS? Qu'est-ce qui t'a fait finalement franchir le pas vers le côté obscur, hein, le côté diurne, lumineux de la force, celui qui te donne le pouvoir, on va dire, de pouvoir faire tes tâches au quotidien? Explique-nous un peu comment ça a démarré.
Comment je suis arrivé un peu dans tout ça, on va dire. En tout cas, avant de répondre à la question, je tiens à remercier Romain Simon pour les 10 euros qu'il a fait sur de donation. Du coup, il commence à payer mon salaire. Il a écrit et pour payer le salaire de Romain. Donc, ça commence.
Merci Romain et merci Viet Vodao pour les dons.
Exactement. Merci à vous en tout cas.
C'est étonnant. Ouais, c'est fou.
C'est étonnant. Du coup, oui, avant de répondre à la question, je voulais quand même le notifier vu que j'ai vu qu'il y avait eu le don. Donc, c'est super gentil de votre part.
Mais merci.
Et
clairement.
Sinon, pour revenir à la question, pourquoi j'ai acheté un Chromebook? Alors, basiquement, c'est parce que j'ai toujours été sur Android au niveau du téléphone avant d'arriver sur Chromebook. J'étais toujours sur des téléphones Android, donc j'ai toujours eu un petit peu l'utilisation de tout ce qui est les suites Google, donc Gmail, tout ce qui est Drive, tout ça. Et donc en fait, je voulais un peu une continuité de mon téléphone sur un ordinateur sans me prendre la tête à tout configurer.
De rester en fait dans l'écosystème Google.
C'est ça, un peu, on se rapproche un peu de Mac, mais version Google, parce que Mac ont forcément Apple un écosystème très 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 fermé, mais tout va bien ensemble. Donc je voulais un peu la même chose sans aller chez Apple, parce que j'ai jamais trop été dans leur philosophie à eux. Et donc c'était un peu l'occasion. Ah, j'ai mon ancien Google qui se met en route, j'aurais pas dû dire le mot, le fameux mot. Et donc en fait, je cherchais vraiment quelque chose qui sorte de Windows, parce que j'ai déjà un PC gaming, et donc c'était pas pour le jeu vidéo vraiment, c'était pour pouvoir faire de la bureautique, regarder des vidéos, multimédia, tout ça. Et je voulais aussi à ce moment-là, chose importante, je voulais acheter une tablette. Et donc en fait, j'ai réussi à allier les deux, sans vouloir acheter une tablette et un PC à côté. J'ai découvert les Chromebooks et je pense que c'est aussi toi que j'ai découvert un peu en premier, on va dire, dans les personnes que je suivais. Et donc, je me suis intéressé, comme tout le monde, avant de faire un achat. Et je suis tombé après, je suis tombé sur le Chromebook, j'ai découvert ce que c'était. Ouais. Et en fait, c'était vraiment ce qu'il me fallait. C'était un mix de tablette, de continuité avec mon téléphone, d'ordinateur et le tout. Pas trop cher et puis assez puissant, rapide et sécurisé, donc voilà.
Ce que je retiens par rapport à ce que tu es en train de dire, effectivement, c'est que déjà il y a la partie un peu tactile qui est liée à ton besoin d'avoir une tablette. Ensuite, tu me contredis, hein, hésite pas. Ensuite, c'est effectivement rester dans l'écosystème et pouvoir avoir une solution qui n'est pas forcément très coûteuse. Mais est-ce que tu ressens quand même d'autres avantages? Je vais pas les citer parce que bon, ils sont connus, en tout cas dans le discours marketing de Google, on les connaît et ils sont rabâchés, mais est-ce que tu as d'autres choses finalement qui font que bah, tu vas préférer le Chromebook à un PC, tu vas, t'as pas envie forcément de revenir sur l'ordinateur sous Windows, t'as pas d'autres éléments? Enfin, je sais pas, la rapidité par exemple.
Bah, rien que la rapidité de démarrage, un Chromebook, bah, pour ceux qui en ont un, en général, tu le démarres en 5 secondes, tu es déjà sur le bureau, si je puis dire, et tu peux déjà vaquer à tes occupations. Donc rien que ça. Et aussi le côté sécurité, j'avais pas envie de me prendre la tête à télécharger un antivirus ou même à en acheter un pour avoir
Ouais, ça
encore plus de
c'est.
sécurité. Là, tout est déjà fait, c'est clé en main. Donc vraiment, c'est le côté pas me prendre la tête, la simplicité en fait. Et je trouve que le Chromebook, c'est un peu ce qui est le plus simple à utiliser sans se prendre la tête. Donc vraiment, c'était ça.
Et je pense effectivement, enfin là-dessus on se rejoint. Enfin, en tout cas, moi j'avais commencé un peu l'aventure sous Chrome OS, enfin, maintenant il y a un peu plus de 4 ans. Et étant donné que j'étais technophile, je m'étais dit, tiens, je vais acheter un petit truc. Je l'avais acheté, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 150 et 200 €, c'était l'Acer Chromebook 11 C131. Bref, j'avais trouvé sur Amazon. Et c'était même un peu au format Lego. Hein. Le châssis, c'était un jouet. Hein. Enfin, c'était assez rigolo, mais il est hyper mignon. Et effectivement, vu que bon, j'avais un usage qui est très orienté web, ça me suffisait. Et notamment même pour la rédaction d'articles sur Internet. Mais comme tu dis, effectivement, tu as la rapidité, tu as la sécurité. T'as pas besoin de te prendre la tête à installer un quelconque antivirus. Et alors, chose aussi qu'il faut rappeler, et j'ai oublié de le rappeler peut-être en introduction, c'est qu'un Chromebook, eh ben, on peut l'utiliser en offline. C'est terminé, on va dire,
Ouais.
toute cette image du Chromebook qui permet uniquement d'accéder au web, et on peut plus rien faire, plus rien faire d'autre chose. Enfin, on peut même pas utiliser d'application. On peut télécharger des applications du Google Play Store. On peut aussi installer Linux et installer des applications Linux. Mais pour ça, effectivement, il faut être quand même un utilisateur un peu avancé sur le sujet, et surtout faut avoir comme bon ami Google pour toutes les recherches et pour
C'est
résoudre
ça.
les problèmes. Ça, c'est vraiment très important, et ça je l'ai appris en tout cas dans certaines formations de développement. Google est ton ami hein, pour tout. Peut-être pas pour les
Vraiment.
données personnelles, hein, certains rigoleront avec ça, mais effectivement. Et donc est-ce que tu te verrais un jour revenir complètement sur Windows? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que tu utilises ton ordinateur Windows pour faire du gaming, en tout cas pour faire du streaming de jeux vidéo. Ça, c'est vrai
Ouais.
que il existe aujourd'hui une solution, hein, Chrome OS, enfin pas Chrome OS, pardon, mais qui est plutôt dédiée au cloud, qui est payante, qui est un peu compliquée. Sur Windows, bah, on a effectivement Streamlabs, et c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir vous streamer le contenu. Donc effectivement, c'est un peu plus simple. Mais est-ce que du coup, si tu avais une solution réelle et concurrentiel, on va dire, par rapport à ce que tu as sur Windows, est-ce que finalement tu resterais dans l'écosystème complet de Chrome, enfin de Google, sur Chromebook, et t'éliminerais en fait finalement ton PC sous Windows?
Moi, perso, j'aurais plus de facilité à partir de Windows parce
Ouais.
que je me rends compte qu'au final, tout ce que j'ai besoin sur Windows, je le fais déjà avec mon Chromebook parce que tout ce qui est aller sur des pages internet, YouTube ou autre, j'ai aucun souci avec ça. Je peux y aller, tu peux le faire avec n'importe quel produit, que ce soit Windows, Chrome OS, Mac ou autre, ou même ton téléphone. Et en fait, la seule chose qui me fait rester sur Windows, c'est plus sur le côté, parce que, bah, comme je disais au début de stream, je suis streamer et donc forcément, pour le moment, on n'a pas de possibilité, en tout cas avec Chrome vraiment développé, de streamer. Mais si vraiment j'avais cette possibilité-là, je pourrais complètement me passer de Windows
Ouais.
et de prendre un Chromebox ou autre à côté, pas forcément une version portable, mais pour avoir un PC quand même fixe, mais pouvoir faire tout ça. On va dire que c'est vraiment, il manque quelques logiciels encore qui sont pas présents sur Chrome OS. Et ça devrait peut-être arriver, je l'espère en tout cas.
Oui.
Mais sinon, j'aurais plus de mal à partir de Chrome OS et retourner complètement sur Windows que l'inverse.
Oui,
Vraiment,
ok.
je m'y sens bien. Et
Ouais, parfait.
tout est synchronisé, tout, en fait, tout ce que je fais sur mon téléphone, je le retrouve sur mon Chromebook,
Ouais.
inversement ou autre. Et ce que j'ai pas avec Windows, ce que tu peux faire, hein, c'est, on peut le faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à tout paramétrer. Donc là, tout est fait. Donc voilà. Moi,
Ça
je suis
c'est
bien sur
vrai,
Chrome OS.
ça c'est intéressant parce que moi je travaille un peu dans le monde de l'entreprise, et on ressent quand même, on a des retours d'expérience de clients qui te disent non, non, moi je veux pas revenir sur Windows parce qu'effectivement j'ai trouvé cette simplicité, et comme tu dis, il suffit juste que tu te logues notamment enfin, en tant que particulier, te logues avec ton compte Gmail et tu retrouves effectivement tous tes favoris, tes applications Android, que tu changes d'un Chromebook à un autre. En fait, ça fait partie aussi des avantages du Chromebook, c'est qu'on peut le prêter, on peut le donner à quelqu'un, il se logue avec son compte et il va retrouver en fait son environnement alors de travail, hein, je reprends un peu mon discours professionnel, mais également de jeux, de divertissement, et ça c'est une chose qui est vraiment intéressante. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience, Romain. Enfin, finalement, on se rejoint un peu et je pense que les gens sur le chat doivent s'y retrouver, hein, pour ceux qui ont un Chromebook.
Bah, je lisais un petit peu le chat, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours la rapidité, simplicité, tout ça, et c'est un peu ce que j'ai dit. Je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans ce que j'ai pu dire, dans les grandes lignes, hein, mais c'est vrai que c'est la simplicité, hein. C'est vraiment ça.
C'est ça, la rapidité, l'insimplicité, très clairement. C'est vrai que Google, sur le territoire français, a vraiment, depuis quelques années, commencé à investir dans de la publicité, hein. On a retrouvé de la pub en extérieur. Là, on est plutôt sur du display un peu en ce moment. Enfin, moi, en tout cas, je vois que je suis ciblé de pub autour des Chromebooks, et notamment, là, dernièrement, la Lenovo IdeaPad Duet, qui essaie de me titiller un peu. Donc on a effectivement cette publicité, cet investissement qui est continu, et je crois même que Google a, durant la finale de la Ligue des Champions, hein, c'était Paris Saint-Germain contre je ne sais plus quel club, ils avaient pris effectivement un petit instant publicitaire un peu à la manière du Super Bowl. Bon, on n'est pas non plus au niveau du Super Bowl, mais ils ont tenté de jouer un peu sur la notoriété, ce qui est pas mal, et je pense que ça a dû leur coûter un peu cher. Alors après, ensuite, on est en contexte aussi de Covid. Là, je réfléchis un peu en même temps, parce que effectivement, il y a cet effet un peu publicité, donc qui est payé par le marketing Google. Mais derrière aussi, il y a l'effet Covid qui fait qu'on a accéléré effectivement toute la partie télétravail, travail à distance, hein. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je ne sais pas si pour toi, Romain, c'est le cas également. Tu travailles de la maison, ouais.
Ouais, ça fait un petit moment. Depuis novembre 2020, je suis en télétravail continu, donc j'ai pris le coup, j'ai pris mes habitudes. Après, je ne travaille pas en télétravail avec un Chromebook, malheureusement. J'aurais bien aimé, ce qui pourrait être possible, mais c'est comme on revient au niveau des logiciels, ils ne sont pas compatibles. Oui. Mais sinon, la plupart des choses que je fais, je pourrais le faire avec un Chromebook, tout ce qui est rédaction, mail, tout ça. Que mon entreprise, on est complètement passé de, bah, je le dis en même temps, on est passé carrément de tout ce qui était Microsoft, donc Office, PowerPoint, tout ça, on est passé carrément sur la suite
Google Workspace. Google. Ouais.
Exactement. Et du coup, bah, en final, moi, je suis aux anges parce qu'on n'utilise que du Google.
Ouais, tu connais déjà les solutions Google, enfin bureautiques, donc t'es plutôt à l'aise là-dedans. Bah, en tout cas, enfin le Covid a accéléré aussi l'expansion des Chromebooks. Il y a eu des études là-dessus. Si vous allez sur mon site, j'ai pas exactement tous les éléments, mais effectivement, il y a eu une accélération en fait des ventes sur le marché du Chromebook, notamment dans l'éducation. Je crois aussi au sein du grand public. Et moi, je sais que côté entreprise, effectivement, on a quand même pas mal de sociétés qui ont investi là-dedans, et c'est super intéressant de voir en fait, de constater cette évolution, et qui est liée à un phénomène qu'on n'a pas du tout maîtrisé, qui fait partie, on va dire, des aléas de la vie. Et autre chose que j'aimerais noter, parce que du coup on a parlé un peu de publicité, de l'effet Covid, mais on a aussi des constructeurs qui s'investissent de plus en plus sur le marché. Alors on va pas citer Acer, qu'on connaît très très bien, Asus aussi, que moi je mets un peu en mode challenger, mais là ils ont quand même des belles machines là qui commencent à arriver. Et on a HP, hein, qui s'intéresse de plus en plus, hein, qui ont sorti quelques modèles en juillet août. Alors plutôt, enfin moi j'ai encore une fois le réflexe entreprise, mais je crois qu'ils vont, il y a bien des modèles grand public qui sont sortis, donc il y a de belles choses. Et les nouveaux aussi, donc on commence à avoir vraiment les constructeurs qui considèrent ce marché comme potentiellement profitable, enfin même comme profitable, et il faut mettre des billes dedans, quoi. Il faut investir dedans, donc ça c'est assez intéressant. Donc on va clôturer cette petite partie un peu thématique. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a convenu. Enfin, ce petit retour d'expérience de Romain, encore une fois, on est en pleine discussion.
Et surtout, je n'ai pas dit, attends, je te coupe, mais mon Chromebook, du coup, pour ceux qui veulent savoir, bah, je le monte à l'écran.
Oui.
Il y en a plein qui le reconnaîtront, je pense. Et du coup, moi, je suis parti sur un Asus C434. Et vraiment, pour son design, son écran borderless et aussi le côté un petit peu compact vu qu'il a un écran de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces si je dis pas de bêtises. Donc
Ouais, c'est
vraiment je
ça.
suis parti sur cette machine là juste pour finir sur cette partie là et que les gens sachent avec quoi je travaille et avec quoi je rédige des articles.
C'est vrai que ouais, ça, on avait oublié d'en parler. Encore une fois, comme je vous le dis, on est en pleine improvisation, c'est-à-dire qu'on a une trame, hein, on la suit,
C'est ça.
mais après on est assez
On va un peu
naturel là
partout.
dans ce qu'on fait, donc on va peut-être tenter de se recadrer, mais effectivement le C434, pardon, c'est je crois le premier Chromebook à avoir proposé des contours borderless, hein, comme vous le voyez là sur l'image, en tout cas pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo. On a des contours borderless, le premier sur le marché, qui ressemble fortement à un MacBook, donc qui va plaire quand même à des personnes du grand public, mais également ce qu'on va appeler des VIP un peu en entreprise. C'est un Chromebook à succès, hein. Très
Ouais, il a bien
clairement.
marché, hein.
Il a très très bien marché et bah, son successeur, donc le C436, moi qui l'ai testé, il est vraiment. Enfin, c'est une pépite.
Ouais,
Enfin,
c'est
c'est
une
une pépite de
amélioration,
design. C'est ça. C'est une belle itération. C'est vrai, mais ça reste vraiment un très très beau Chromebook. Du coup, on va clôturer cette partie un peu retour d'expérience pour se pencher un peu sur les actualités, hein.
ça.
Le
Ouais,
mois de janvier a
on
été
a eu.
fort en actualité, tout à fait, hein, notamment sur le CES 2021, où on a eu bah, écoute, pas mal de constructeurs. J'ai l'impression que ça devient tendance, en tout cas sur la partie
Ouais.
Chromebook, que chaque année, eh bien, on est un Acer, un
Ils
Asus.
sortent.
Il y a qui d'autre encore? Alors HP a pas fait d'annonce, mais en tout cas un Samsung pour l'étranger, qui se disent bah, c'est le moment de dévoiler des belles machines sur le marché Chrome OS. Donc ce qui veut dire beaucoup en tout cas sur
Carrément. Ouais,
l'importance du marché.
ils le mettent en avant maintenant le fait de sortir des nouvelles machines Chromebook, alors qu'avant c'était on met tout sur Windows et après oh, une petite fin, on parle d'un Chromebook qu'on sort en cachette ou autre dans le coin de sous le coin d'une table quoi. Et là vraiment ils le mettent en avant et tu vois que vraiment ce marché-là plaît et en expansion. Donc maintenant ils mettent vraiment le tout sur les Chromebooks en plus des PC traditionnels on va dire.
C'est ça,
Donc
ça veut
c'est bien.
dire qu'on est en général, donc durant le CES, on va effectivement trouver des innovations, hein. C'est le moment pour les entreprises, eh bien, de dévoiler leurs nouveaux produits, leurs nouvelles innovations. Et sur le marché du Chromebook, effectivement, on a les constructeurs qui en profitent pour annoncer pas mal de choses. En l'occurrence, j'ai en tête Acer. Normalement, vous êtes censé voir un peu le contenu que je suis en train de projeter, effectivement, bah, qui vient du
Ouais.
site Chromebook Live, mais c'est un support aussi de discussion un peu et d'échange. Acer qui a annoncé donc deux modèles embarquant. Alors, deux modèles, c'est un grand mot, parce qu'en fait, finalement, c'est le Acer Chromebook Spin 514 et une déclinaison Enterprise, mais deux modèles qui embarquent de l'AMD Ryzen. Donc, on est vraiment sur de l'équivalent en Intel Core côté AMD. Ce que j'aime bien noter, hein, ce qui est intéressant, c'est que sur le marché, il y a une forte domination d'Intel, vous devez le savoir, je pense, et surtout, il y a eu des problèmes de shortage, de rupture des stocks, ce qui fait que les constructeurs, à un moment, bah, peuvent pas forcément répondre à la demande, hein, que ce soit celle du grand public ou de l'entreprise, et se disent, bah, on va peut-être collaborer, eh bien, avec d'autres constructeurs de proc, donc notamment AMD, pour pouvoir finalement convenir un peu à la demande. Moi, Romain, en tout cas, quand je vois ce modèle, ça me fait fortement penser, parce qu'après avoir acheté le Acer
Ouais.
Chromebook 11 pouces, donc le Lego-like là dont je parlais, j'avais acquis le Acer Chromebook 13, R13, pardon, donc un
T'as eu beaucoup
convertible.
de Acer et t'aimes beaucoup en
Ouais.
plus, je crois, les Acer en bas de ce que j'ai cru comprendre. Donc,
Je vais pas te mentir, ils font quand même des produits de bonne qualité et c'est eux qui
pas
sont
faux.
vraiment proactifs sur le marché.
Ah,
Donc,
mais vraiment, ouais, sympa. Et de
là.
voir des Ryzen dans des Chromebooks, ça fait plaisir aussi. Ça, bah, la concurrence, comme on dit, ça peut toujours que être favorable aux consommateurs. Donc, c'est bien de plus avoir que du Intel, ce qui était un peu le cas, ou un petit peu des fois du MediaTek ou autre. Mais là, vraiment de voir AMD de se concentrer sur le marché des Chromebooks, ça fait plaisir. Moi, je suis assez content
Bah
de voir ça.
je rejoins ton avis, hein, effectivement, la concurrence ne fait que du bien en fait au consommateur, à l'utilisateur final. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a de plus en plus de, on va appeler ça des notebooks, mais non, des Chromebooks, qui ont des écrans quasi borderless, hein. Enfin, quasi, c'est un grand mot, parce que sur la partie surface basse là, du Acer, c'est pas forcément la bonne définition, mais effectivement, on a quand même des choses qui sont de plus en plus design au niveau des écrans. Ça ressemble effectivement fortement à R13, donc on doit être sur une imitation alu ou sur un revêtement alu, et là je remarque qu'il y a des petites ventilations derrière, un peu comme le spin 13 que j'avais eu. Donc non, on arrive avec une proposition assez intéressante, tout en sachant que derrière, on avoisine les prix, on est entre 129 euros et 799 euros. Ce qui fait qu'on est en train de constater un peu sur le marché qu'on a de plus en plus, alors des produits premium atteignant les 1000 euros, mais surtout on a des produits qui sont de très bonne qualité dans les 500, entre 500 et 700 euros. Parce que là, très clairement, alors bon, malheureusement, il n'y a pas de tactile, il n'est pas convertible, mais on a quand même du 14 pouces, on a de l'AMD Ryzen, donc on a, si je ne dis pas de bêtises, on peut même avoir du Ryzen 7, donc on a de l'équivalent en Intel Core, on peut aller jusqu'à 16 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, Wi-Fi 5, des ports USB type C. Ah non, on a la convertibilité, excusez-moi, je vous dis des bêtises.
Ouais, elle est en photo en plus.
Voilà, en plus elle est en photo. Donc, désolé pour la petite erreur, mais effectivement, on a quand même des produits de très bonne qualité à un prix, on va dire, intéressant.
Et j'ai l'impression que c'est vraiment la tranche de prix où il y aura le plus de batailles entre les constructeurs. Parce que le premium, ça a encore du mal à passer au niveau des gens, au niveau d'un Chromebook, ce que je comprends, mettre plus de 1000 euros dans un Chromebook, c'est pas donné en soi, c'est pas vraiment ce qu'on imagine d'un Chromebook, donc
C'est
forcément
ça.
c'est un peu compliqué. Et les gens ils veulent pas forcément mettre du premier prix, disons que le Chromebook va peut-être pas tenir plus de 2-3 ans. Donc je pense que c'est vraiment l'endroit où il y aura beaucoup plus de nouveautés dans ces tranches de prix-là en fait. Ils
Bah,
vont se battre les constructeurs.
je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me fait fortement penser en fait au marché des smartphones, où effectivement tu commences à avoir des produits qui font largement l'affaire entre voilà 500, 700 euros, peut-être aller 800. Après, tu as l'élite
C'est ça.
iPhone, Samsung, où tu arrives à des prix démentiels autour des 1200 et 1400 euros, si je dis pas de bêtises, pour le dernier iPhone Max compagnie. Mais franchement, enfin, quand je regarde par exemple le Pixel 5, je sais plus quel est son prix. Il doit être autour des 700 euros, si je dis pas de bêtises.
Pixel 5, il est
Non?
sorti à 629.
629, ok.
Et du coup, bah, je pense qu'il a peut-être baissé depuis, mais déjà le prix 629, il avait bien baissé par rapport à la quatrième version qui était beaucoup plus chère.
Ouais, alors tout en sachant que Google arrive aujourd'hui à te proposer un appareil photo qui est peut-être pas le dernier cri du marché hein, comparé à du Samsung et du iPhone, mais qui reste très très compétitif. Hein. Ils avaient déjà eu des prix, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas des
Oui.
reconnaissances pour avoir quelque chose de vraiment solide sur même du moyen de gamme à 400 euros. Hein.
En fait, ils sont très bons au niveau du logiciel. En fait, ils ont
Oui.
qu'un seul capteur. Ils te font mieux que des fois des smartphones à plus de 1000 euros parce qu'ils ont un très bon. Leur logiciel de traitement de photos est très très bon. Et ils ont misé là-dessus et ils ont raison en soi.
Ouais, non, mais très, très clairement. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire un peu le parallèle avec le marché du smartphone. Hein. C'est assez intéressant. On va basculer du coup. Alors, toujours, on est toujours en mode CES 2021, mais cette fois-ci avec Samsung. Alors, Samsung, malheureusement, vous êtes déjà plus ou moins au courant et il y en a beaucoup qui m'ont déjà posé des questions sur le site. Malheureusement, hein, il n'est toujours pas disponible en France, même si. Je le sens venir, hein. Je ne sais pas
Toi.
pourquoi. Ah, moi, je le
Moi, je
sens
le
parce qu'on a une gamme Galaxy qui est en train de se faire autour du smartphone, autour des earbuds. J'ai plus le nom exact des écouteurs Samsung, des Samsung Buds. Je ne sais plus exactement. Et pourquoi pas rajouter, alors pas forcément le Chromebook, parce que encore une fois, la stratégie de Samsung, c'était de partir du territoire européen pour les ordinateurs portables. Oui, pour les ordinateurs portables. Et il pourrait, pourquoi pas, revenir pour combler tout ça et arriver avec une vraie offre, tout en sachant qu'en Europe, le marché en tout cas du Chromebook grandit. Le marché de l'éducation, je sais plus, dans certains pays scandinaves, est dominé par Chrome OS, ce qui est assez fou. Donc je pense que y a peut-être quelque chose qui pourrait effectivement arriver. Enfin, en tout cas, je l'espère parce qu'encore une fois, ça nous ferait un concurrent supplémentaire. Donc, en tout cas, il y a eu l'annonce du Samsung Galaxy Chromebook 2. C'est le premier à embarquer un écran QLED. Est-ce que peut-être
C'est
toi, Romain, tu peux en dire plus un peu sur ce
Ouais,
Samsung?
bah je sais que entre le Chromebook, donc le Galaxy Chromebook, le premier qu'ils ont sorti en gamme Galaxy sur leur Chromebook, il
Ouais.
était sur un écran OLED, donc c'était pas leur technologie à eux. Et donc là, ils sont passés sur vraiment un écran QLED, ce qui est propre à Samsung, c'est ce
Oui.
qui eux construisent. Et donc on se retrouve vraiment avec un écran avec des contrastes beaucoup plus, beaucoup mieux. Il y a
Le
tout ce qui est
noir aussi qui est
noir,
profond, je crois, ouais.
noir plus profond, en fait, vraiment une qualité d'image supérieure à ce que tu peux trouver avec une dalle IPS ou autre, d'autres types de dalles. Après, à comparer avec de l'OLED, bah là, il faut comparer parce que c'est vraiment à peu près des écrans qui peuvent se valoir. Ils ont chacun leur défauts, chacun leur avantage. Mais c'est vrai que là, ils mettent leur propre technologie dans un écran, ce qui est une première, parce que je crois qu'il n'y a aucun écran QLED. Chez d'autres constructeurs, excuse-moi, ce qui est
Yes.
normal.
Ouais.
Mais ouais, rien que pour l'écran, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus sur ce Chromebook-là, c'est vraiment l'écran, de voir un peu ce que ça donne. Mais ouais, ça permet d'avoir une meilleure qualité normalement.
Je te rejoins là-dessus, j'aimerais bien expérimenter ou en tout cas le voir en œuvre, hein, cet écran QLED. Alors j'aurais même adoré pouvoir tester le 4K. Hein.
Ah bah.
Alors la 4K malheureusement était présente sur le premier modèle et ne l'est plus sur le second. Hein. Il y a eu un revirement, on va dire, de Samsung, parce que le premier Samsung Galaxy Chromebook était positionné à près de 1 000 $ ou 1 000 €, j'ai plus exactement le chiffre. En tout cas, on était vraiment sur quelque chose de très très premium qui collait peut-être pas avec le marché, encore une fois, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui sur l'environnement Chrome OS. Enfin, en tout cas, quand on parle de Chromebook, on pense effectivement à une machine qui est abordable en termes de prix. Et donc, Romain, on a quoi? On a la 4K qui est en moins, on a le S Pen
Qui est
qui
plus
disparaît, qui est plus là.
en option.
Hein.
Ouais,
On a
qui est en
quoi
option.
d'autre? On a
Il
une
y
caméra en
a.
moins, je crois.
C'est ça, une caméra qui est normalement au niveau du clavier qui disparaît et aussi tout ce qui est processeur qui n'est
Oui.
plus. On part plus sur du haut de gamme. Là, on a vraiment baissé au niveau des composants pour, je pense, de réduire les prix, ce qui est.
C'est
Bah, de toute
ça.
façon, on le voit au niveau du prix final.
Et ça, c'est très intéressant parce que Samsung nous propose quand même de l'Intel Celeron. Hein. C'est-à-dire de l'Intel Celeron et de l'Intel Core i3, mais par contre, mise sur l'Intel Celeron avec même une possibilité de l'avoir en 4 Go de RAM. Donc ça veut dire qu'on va avoir quand même une machine. Moi, je suis plus très en confiance avec les Chromebooks de 4 Go de RAM. En tout cas, encore une
Non,
fois, pour mes usages à moi. Hein, moi, très franchement, je suis hyper exigeant. Et je tourne là actuellement avec du 8 Go de RAM et de l'i5, hein, de l'i5 10e génération. Donc effectivement, là-dessus, revenir sur du 4 Go de RAM avec de l'Intel Celeron, ça fait un peu mal. Par contre, je sais que sur les nouvelles versions apparemment d'Intel Celeron proposées par Intel, on peut avoir en fait un peu plus d'optimisation et ça peut peut-être le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter là-dedans? Donc finalement, avec ces composantes un peu moindres, eh bien on a des prix voilà, qui sont d'environ
revu à la baisse.
549 $, quoi, qui sont vraiment revus à la baisse, comme tu dis Romain, et donc qui vont être abordables pour le consommateur américain.
Ouais, je pense que pour moi, ils ont la première version. Après, j'ai pas eu les retours, mais je pense qu'elle a pas dû se vendre tant que ça. Forcément, elle était très très chère. Et je pense qu'ils ont revu un peu leur copie et ils ont vraiment réduit pour se retrouver dans la gamme de prix qu'on disait à peu près pour être un peu plus
Concurrentiel.
facilement vendu. Ouais, concurrentiel, effectivement. Et après, je revenais un peu sur le chat parce que il y a le Doom qui dit qu'il faut qu'on lise le chat. Alors, on essaye de vous lire en même temps, on suit la trame, mais à la fin, vous inquiétez pas, on vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra. On essaye un peu de suivre pour pas que le live dure trop longtemps parce qu'on s'est mis
Un peu,
une heure
effectivement,
de temps à peu près
des limites, ouais.
et délai effectivement, mais en tout cas, le Doom, t'inquiète pas, on répondra à des questions si tu en as. Et s'il y a vraiment des questions très très pertinentes ou par rapport au sujet qu'on parle, on essaye de s'arrêter pour y répondre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais vous inquiétez pas, toutes les questions, vous pourrez les poser à la fin. Voilà. Je voulais juste faire la petite
C'est ça,
aparté comme
hein.
ça.
Juste pour reprendre effectivement ce que dit Romain, c'est du coup vu que c'est le premier épisode, on
Au cours,
fignole,
ça
on
peut.
essaie de voir un peu comment ça se passe. Effectivement, c'est important que vous nous dites aussi, voilà, on lit pas assez le chat et on reverra peut-être un peu le format différemment, mais on essaye. Et je vois que Romain arrive en même temps à écrire.
Oui,
Moi, j'ai un peu
répond
plus de
un peu.
mal parce que y a tout devant moi. J'ai l'impression d'être dans une salle de contrôle. J'ai deux écrans, j'ai une table de mixage, j'ai plein de trucs, etc. Je vois le live, en tout cas les articles qui m'aident en même temps en tant que support. Donc désolé encore une fois si c'est pas parfait pour cette première émission, mais en tout cas pour ce premier épisode. Mais en tout cas, on essaiera effectivement de s'améliorer. On va enchaîner sur le CES 2021, notamment avec Asus aussi, parce que moi j'avais d'abord lu les news, j'avais entendu parler de Samsung, j'ai fait OK, j'ai vu Acer, et j'entendais pas parler d'Asus. Et paf, Asus qui nous sort trois nouveaux Chromebooks. Du coup, j'étais un peu sur le sur le derrière, mais du coup, une belle impression avec vraiment une stratégie où ils ont ciblé du grand public, ils ont ciblé de l'entreprise et ils ont surtout ciblé les gamers. Hein, les gamers. Donc on a ce premier laptop, c'est le Asus Chromebook CX9 Romain, enfin moi que je trouve vraiment, pour le coup, vraiment très beau.
Ouais, il est
Et
magnifique.
avec un... Alors je crois que ça s'appelle comme ça, hein, si je dis pas de bêtises, chez Asus, c'est la technologie Ergolift. Hein, c'est le fait de pouvoir, en fait, lorsque vous redressez, lorsque vous mettez l'écran vers l'arrière, il y a la partie basse qui fait remonter le clavier. Et ce qui est intéressant de noter, ce qui est très malin, c'est qu'effectivement, en faisant ça, il cache la bordure basse,
Carrément.
le contour bas, et ce qui fait qu'en fait, on a une sensation de sans bordure sur le bas. En tout cas, ce qui est intéressant de noter sur ce modèle, c'est qu'il embarque quoi du processeur de 11e génération.
Il y a du. Ouais, je crois qu'on a le choix entre du Intel 11e génération, Intel Core, et du AMD Ryzen. Donc là, on a vraiment le choix sur ce qu'on veut. Et moi, je le trouve vraiment mais magnifique celui-là. Le seul petit détail, en tout cas, qui me chagrine,
Oui.
et je pense que je pourrais pas partir sur un produit comme ça, c'est le fait qu'il soit pas convertible. Donc pour mon usage, comme je te disais, un peu tablette, c'est un peu mort.
Ouais.
Et le fait qu'il soit pas tactile. Après, tu vois, et de toute façon, tu l'as indiqué un peu dans ton article, on voit que c'est un produit pour du télétravail. Après, il est vraiment très beau, mais tu vois que t'es pas là pour appuyer sur l'écran avec ton doigt ouate, c'est vraiment télétravail. Donc, mais je le trouve très beau. Au niveau du design, le fait, la charnière, là, comme tu dis,
Bah, qui est
magnifique.
vraiment effectivement qui est pas mal avec un poids d'environ 1 kilo,
Très
ça
léger,
se
ouais.
rapproche. Enfin, moi j'avais testé le Pixelbook Go en, je crois que c'était 900 grammes. Hein. Oh, c'est waouh!
Ah ouais, c'est 900 grammes. Ah ouais,
Ouais,
c'est
je crois que
vraiment
c'est
léger, ouais.
900 grammes si je dis pas de bêtises, je sais plus
Ouais.
exactement, mais là en plus on note qu'il y a lecteur d'empreintes digitales, on a quoi? On a aussi du Thunderbolt hein, à noter, ça c'est intéressant parce que ça c'est assez nouveau dans le monde du Chromebook, donc on est pas mal. Par contre, il n'y a pas de Ryzen hein, sur celui-là, hein, si je
Il n'y
dis
avait
pas de
pas de Ryzen?
bêtises. Hein. Non, il n'y a
T'es
pas de
sûr?
Ryzen
Ah,
si je te
c'est
dis
vrai
pas de
qu'il
bêtises
dit des
là-dessus.
bêtises du coup.
Attends,
Excusez-moi.
le Ryzen.
J'ai peut-être confondu, hein, parce qu'ils ont en annoncé trois et j'ai peut-être confondu avec un des trois qui avait du. Je crois qu'il y en a un des trois qui a du Ryzen, mais alors je dis
Alors,
peut-être une
ah,
grosse.
je sais c'est lequel, c'est le gaming.
Ah oui, bah voilà, j'ai confondu. Bah, excusez-moi, en tout
C'est le
cas, c'est pas
gaming.
ça. Et
Non,
bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live, entre autres, comme ça,
bonsoir tout le monde et on te lit le Doom et je pense que on va devoir faire un point avec toi à la fin exclusivement pour que tu nous conseilles parce que je vois que tu nous dis de faire aussi des chapitres par sujet pour couper à
Ça.
la fin on ne se rappelle plus de tout. Alors c'est vrai qu'on parle quand même de beaucoup de choses, hein. C'est peut-être un
Ah
peu
non, on
trop
débite, hein. Là,
qu'on...
vous en avez au niveau contenu, vous allez sortir de là, du stream, vous aurez une tête, mais comme ça.
Ah mais c'est clair, j'espère juste au moins que ça... Bon, malheureusement ça
Non,
ne
mais
reposera peut-être pas, mais...
donner toutes les idées ou autre, comme ça, nous, on pourra que améliorer le contenu et l'interaction, parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à gérer.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va continuer sur le Flip CX5. Donc là, on a un modèle qui est très intéressant parce que moi j'ai l'impression, Romain, de voir le C400. Non, attends, C434.
34, 34.
C436, pardon, excuse-moi. Avec,
Mmh.
en fait, une surface un peu noire mate au niveau du clavier, qui je trouve est assez joli, hein, ce qui le différencie
Mmh.
du C436, pardon.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce modèle? Donc, lui, il est convertible, tactile, donc
Bon, moi, j'ai
forcément.
juste l'impression que c'est on dirait un peu le petit frère du 436-434. C'est vraiment, on dirait une mise à jour avec les nouvelles configs. Après, j'ai vu qu'il y avait une petite différence. C'est vrai que je crois qu'on n'en a même pas parlé dans l'article. C'est
Ouais.
qu'au niveau du clavier, on a la présence du track
Alors
du.
si. Alors c'est une belle remarque. Normalement, je crois qu'elle est notée dans l'article, mais effectivement, on a un pavé numérique. Alors
Pavé numérique, je cherchais le nom, il m'était sorti de la tête, mais ouais.
le pavé numérique qui, on va dire, était exclusif un peu à Acer avec je crois que c'est le l'Acer Chromebook 715, si je dis pas de bêtises. Donc ça le différenciait. Et là, effectivement, alors attendez, si je dis pas de bêtises, donc sur celui-là, on n'a pas sur le CX5. On l'a, donc effectivement, tu as raison. Tu as
Ouais,
raison,
ah non,
Romain,
mais j'ai
c'est...
vu ça en revenant, bah, quand on faisait un peu l'émission, je me suis dit, ah tiens, il a un pavé numérique, c'est assez rare, et je crois que les trois l'ont, donc vraiment, ils ont mis ça en place.
Et ben en tout cas,
Sur le
les deux derniers longs, je crois, parce que du coup,
développement.
j'ai vérifié un peu au-dessus.
Ouais.
Et
Ouais.
le dernier dont on va parler, c'est surtout un positionnement assez
Étrange.
inaudit
Incroyable.
sur le marché du Chromebook. C'est que là, clairement, on se positionne avec un Chromebook qui est destiné aux gamers. Notamment avec les touches WASD, donc côté QWERTY, c'est ZQSD qu'on a souvent utilisé si vous avez été joueur de Counter-Strike, ou en tout cas joueur de FPS, de jeu en mode FPS, de tir à la première personne, ça vous est familier, et donc on a vraiment un parti pris gaming, parce que effectivement on a le cloud gaming qui est en train de se développer fortement. On y reviendra peut-être à la fin de l'émission, mais je sais pas ce que t'en penses toi Romain, il a l'air d'être beau. Moi j'ai noté qu'il faisait quand même quasiment 2 kilos, enfin on est à 1,89 kg, donc ça c'est
Ouais.
étrange, mais je sais pas ce que t'en penses.
Bah, j'aime bien le côté. Je crois que c'est la première fois qu'on a un Chromebook vraiment orienté gaming. Alors forcément, c'est plus. On faut voir la chose plus sur du cloud gaming comme Stadia, GeForce Now ou autre, que vraiment faire tourner Cyberpunk sur la config actuelle. Mais ouais, non, ça peut être pas mal à voir après. Moi, je le trouve sympa. Après, peut-être le trackpad un peu petit ou un peu fin, je sais pas. Bon, après, quand tu joues à des FPS ou autre, tu joues à la souris.
Bah ouais, de toute façon, tu t'équipes de la
Ouais.
souris ou avec Stadia, t'es avec la manette en l'occurrence. Donc, alors attends, je ouais, pardon,
Ouais, vas-y.
excuse-moi. Non, non, je te
Non, je
laisse
voyais un
finir.
truc sur le chat, c'était assez
Bah,
intéressant
moi aussi, vas-y, bah, je te laisse prendre la main dessus.
Non, mais tout à l'heure, on parlait en plus de l'orientation des Chromebooks, et donc dès qu'on dépasse les 1000 euros, et donc je sais pas si c'est ce
Là,
que
ça
tu as vu
pique.
sur le chat, mais
Ouais,
ça
c'est
m'a
ça.
fait tilt, c'est que forcément, et je les comprends les gens, il y a Dominique qui dit pour 1200 euros, je prends plutôt un MacBook avec puce M1, ce que je peux comprendre en soi. Et c'est là qu'on voit que le premium sur le Chromebook, c'est pas encore très bien vu, je trouve. Et peut-être, bah, c'est pour ça que les constructeurs évitent au maximum d'aller dans des Chromebooks dans ces prix-là pour moi.
Bah écoute, non, non, je rejoins un peu ton avis, surtout que là, apparemment, on est sur du processeur Intel Core i5, donc on n'est même pas sur du 7G7, de l'Intel Core, pardon, i7. Par contre, on a du 16 Go. On va dire que ça peut être peut-être un peu justifié parce qu'aussi, on a un design qui est quand même bien poussé, mais pour du Chromebook, ça pique un peu les yeux. Je vois que Matt Image est d'accord et je te fais un petit coucou, Matt. On se connaît. C'est vrai que c'est. Non, non, ça fait très mal, mais la stratégie, je pense qu'elle est la suivante, c'est. On attaque avec un prix qui est faible, on arrive à conquérir du monde, puis ensuite, vu que tu es dans l'écosystème et tu es habitué à être dans l'environnement Google avec ton smartphone Android, ton Chromebook enfin ton ordinateur sous Chrome OS, bah tu te diras peut-être que voilà, ton prochain achat, tu vas lâcher un peu plus d'argent pour avoir le top du top. Voilà,
Ouais,
je
non,
pense qu'il
carrément,
y a, il y a,
carrément.
il y a un peu cette stratégie qui se met en place. Enfin, après, bon, c'est mon avis et je ne travaille pas pour Google, donc je ne pourrais me prononcer à leur place. En tout cas, le modèle sur la partie gaming, lui, par contre, si je dis pas de bêtises, on est sur un prix à partir de 649 euros.
Ouais.
Donc, et on est sur et là celui-là est en Ryzen. Donc, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure.
Ah,
Et
c'est lui, ouais, du coup.
donc le 649 euros, je pense que ça doit être 4 Go avec du Ryzen 3, largement suffisant pour faire du cloud gaming. Hein, avec Stadia ou bien Nvidia GeForce Now, vous n'avez même pas besoin d'avoir une
Après, je
grosse
trouve
bête, quoi.
ça dommage quand même qu'on propose encore du 4 Go sur des Chromebooks. C'est pas, je sais pas, je trouve ça quand même limite au niveau des prix qui sont proposés. Même si 4 Go, ça fera tourner le Chromebook tranquillement, parce que Chrome OS, ça demande pas énormément de ressources. Mais je trouve ça quand même un peu étrange de proposer 4 Go. Après, c'est mon avis, hein, mais
Bah tu as raison, mais je pense qu'on n'est peut-être pas la cible. Hein, parce
ouais,
que, comme
clairement.
je te dis, bah là, je prépare un test hein, que je vais bientôt. Enfin, il faut que je fasse le montage du coup. Et j'ai eu une machine en 4 Go, donc c'est difficile de revenir là-dessus. Mais comme j'aime bien faire mes tests un peu des onglets où je lance pas mal de vidéos, évidemment, c'est un test qui est totalement tordu, hein, mais qui nous permet en fait de voir jusqu'où, on va dire, peut aller Chrome dans la gestion en fait des onglets et surtout du processeur derrière. Non, enfin, à 4 Go. Tu peux faire des choses sensées. Tu fais des... Ah, j'ai... Ah non, excuse-moi. Oh, sur le Acer Chromebook 730... 700... Pardon, 131, mon
Ouais.
premier Chromebook était à 2 Go. Était à
Ah ouais.
2 Go. Et j'arrivais tout de même à rédiger des articles sur Chromebook Live. Fallait être un peu patient. Je ne dis pas le contraire. Et c'est pour ça que j'ai ouvert les chakras en basculant sur le R13 avec du 4 Go. Déjà, avec du 4 Go, ça m'a fait plaisir. Donc, non, non, 4 Go ne reste pas déconnant, encore une fois, pour une certaine population. Encore une fois, nous, je pense qu'on est assez exigeant sur le sujet. Dernière news, en tout cas, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose, Romain ou...
Non, je voyais aussi un truc, un commentaire du coup de Romain Simon qui disait par contre, j'ai l'impression que les Chromebooks. Non, c'était pas celui-là, j'ai sauté un de ses messages. C'était, je prendrais un Chromebook à 1 500 € quand j'aurai le. Bah, il en aura l'utilisation. Parce que c'est vrai qu'en soi, tu prennes un Chromebook à 800 € ou un Chromebook à 300 €. Au final, tu vas faire quasi la même chose et les deux vont le faire aussi bien. Peut-être il sera un peu plus rapide ou il pourra ouvrir plus d'onglets. Après, tu es un des seuls, je crois, qui ouvre 50 onglets en même temps sur un Chromebook. Mais du coup, c'est vrai que l'utilité pour le moment d'avoir un Chromebook à 1 500 €, alors que tu peux faire la même chose à 500 € ou même moins,
alors,
c'est vrai qu'il n'y a pas d'utilité pour le moment. Et je comprends que ça ne se vende pas tant que ça, en fait.
Je vais être un peu plus sur la réserve par rapport à ce que tu es en train de dire.
Ouais.
C'est vrai, ça ne va pas concerner énormément
la plupart
de monde.
Des gens,
mais si tu te focuses sur une cible type développeur, et en plus Romain Simon, si je ne m'abuse, tu es développeur et on s'est vu sur Twitch, si je dis pas de bêtises, et n'hésite pas à me le confirmer sur le chat. Si on fait du développement d'applications Android, parce que c'est possible sur un Chromebook avec Android Studio qui est officiellement supporté avec sa version sous Chrome OS, un Chromebook peut devenir très gourmand. Et donc effectivement, on va préconiser un processeur Intel Core de 7e, enfin i7, pardon, 10e génération, avec 16 Go de RAM pour avoir un confort optimal dans le cadre de développement. Mais, par exemple, si je prends mon exemple, je ne fais pas de développement, ou en tout cas, j'en fais un peu à côté. i5 grand max, c'est parfait. Enfin, je préconise en général du 8 Go i max pour des utilisateurs qui sont exigeants. C'est un peu ce que je préconise, effectivement.
Oui, voilà, ça dépend de la tranche de personnes à qui tu parles au niveau de ton Chromebook, mais pour la plupart des gens, effectivement, un i5, comme tu dis, c'est ce que j'ai moi et c'est suffisant, j'ai pas besoin de plus, quoi. Et encore, c'est déjà beaucoup pour un Chromebook, des fois, dans l'utilisation que j'en fais.
Oui, non, mais c'est clairement ça. Dernière petite news par rapport au CES, Romain, c'est Intel. Intel,
bah voilà.
Encore une fois, l'an dernier, Intel avait annoncé le projet Athena avec l'inclusion des Chromebooks, qui est, pour moi, je considère vraiment un message très fort parce que c'est quand même le constructeur de puces, de processeurs qui vient se prononcer et dire, écoutez, il y a un marché, il y a celui des Chromebooks, encore une fois, il y a un marché de l'éducation que nous, on ne voit pas en France, qui est dominé aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, ça monte énormément et il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment un marché. Et cette année, Intel a décidé de sortir pour les Chromebooks, c'est sous la plateforme, ce qu'ils appellent Intel Evo, des processeurs de 11e génération. Alors, vous vous doutez bien que chaque itération, il y a forcément plus de possibilités en termes de productivité, de rapidité. Donc là, en l'occurrence, ce qu'ils annoncent, c'est la meilleure expérience sur les applications Google Play Store, mais également sur Linux et sur l'utilisation de Microsoft Windows 10. Pardon, non, attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Ils disent de faire tourner Linux et Microsoft. Je pense qu'ils doivent parler, pardon, de Windows 10, parce qu'effectivement, alors, pour ceux qui ne le savent pas, on peut installer Windows 10 sur un Chromebook officiellement. Mais ça, c'est uniquement lié au monde de l'entreprise, malheureusement. Alors malheureusement ou heureusement, enfin, j'en sais rien, mais dans les sociétés aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent encore avec des macros Excel très très complexes. Et des clients, par exemple, qui basculent sur des Chromebooks, c'est difficile de se dire, comment je fais avec mes macros? Je ne peux pas faire un basculement de ces macros sur du Google G Suite, ou en tout cas, c'est peut-être un peu plus complexe, ça demande du travail, de la transformation. Et pour ces clients-là, il existe aujourd'hui une solution. Vous connaissez peut-être Parallels Desktop sur Mac, qui existe aujourd'hui sur Chrome OS également, et qui permet finalement de combler ses besoins. J'ai vu une démo, je peux vous dire que j'ai été assez bluffé, en tout cas sur le fonctionnement de Windows. On n'est pas allé un peu plus loin, j'ai pas vu si effectivement ça exécutait bien les macros, donc je vais pas vous mentir sur le sujet, mais en tout cas c'est très prometteur, et effectivement, bon, pour les gens qui aiment bien bidouiller, c'est dommage de ne pas pouvoir installer Windows 10 sur un Chromebook, mais typiquement, pour ce genre de cas, on préconise de l'i7 avec 16 Go de RAM. On en parlait tout à l'heure par rapport aux configurations. Donc c'est, Intel Evo, la promesse, c'est aussi 2,5 fois plus de rapidité pour de la productivité multitâche. Dans tous les cas, effectivement, sur un Chromebook, on va s'attarder sur quoi? L'exécution des applications, le multitask, mais également la productivité sur le web, où là, encore une fois, on a une promesse de 5 fois plus de rapidité. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est toujours une belle attention de la part d'Intel de livrer ce genre de message, d'innovation déjà, et d'avoir en fait finalement sur une vidéo promotionnelle, enfin, il y a eu une sorte de keynote, à la fin vraiment un beau focus sur Chromebook. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Robin.
Non, je suis d'accord, mais ça montre qu'il y a de l'engouement. Je reviens un peu à ce que je disais, c'est que c'est les Chromebooks maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux, c'est plus vraiment le tout au second plan, donc, et ça se voit rien qu'avec Intel qui mettent pas mal de moyens dedans, et comme AMD qu'on a vu qui s'implante dans les Chromebooks. Non, je suis content, moi, j'aime bien.
Ah bah alors ça, tant mieux, et je te rejoins là-dessus, hein, c'est que des messages positifs, hein, tout comme les constructeurs qui investissent et qui font ces annonces sur le CES 2021. On va basculer maintenant, on parlait tout à l'heure de chapitre, hein, on va appeler ça chapitre, on va basculer maintenant un peu sur les nouvelles features de Chrome OS, en tout cas celles qui sont en prévision, hein, si vous me suivez sur Chromebook Live. Ce que j'aime bien faire, c'est effectivement un peu chiner, je regarde un peu sur internet, mais je fais aussi des tests parce que j'ai la chance d'avoir un Chromebook sous Canary, un autre en mode dev et un autre en mode stable.
Non,
et
du coup, il en a beaucoup.
j'ai la chance de pouvoir en avoir beaucoup et de faire pas mal de tests et de découvrir en fait réellement ces fonctionnalités. Alors c'est encore une fois, là on va vous lister quelques petites news, c'est pas non plus des news transcendantes, mais on a typiquement la section Linux, eh bien, qui va se préparer à changer de nom. Alors j'ai voulu rédiger cet article sur Chromebook Live parce que je trouvais ça assez important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur votre Chromebook, vous avez effectivement dans vos paramètres, eh bien, écrit Linux version bêta. Donc si effectivement vous êtes un utilisateur non aguerri, vous allez vous poser la question, vous allez dire mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce que je fais, je clique dessus, est-ce que ça marche, je me lance dessus, ah bah finalement je ne comprends pas, j'arrive pas à installer. Et c'est vrai qu'encore une fois, je ne vais pas dire que Linux est une nébuleuse, mais c'est une nébuleuse peut-être pour les débutants, et je dis à chaque fois d'être effectivement un peu avancé sur le sujet. Et là ce qui est intéressant, c'est que Google a décidé en fait de changer un peu ce naming et de mettre à la place développeur. Comme ça au moins vous qui êtes sur votre Chromebook et qui ne souhaitez pas développer, vous saurez que cette section n'est pas dédiée à vous. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Enfin, c'est pas non plus la grosse news du moment, mais oui, je trouvais ça intéressant de le noter.
Ça a le mérite d'être clair, au moins, on va dire. Et c'est un truc qui a rien à voir avec ce sujet, mais je voyais dans le chat, c'est Jeff Kerr qui a mis. Par contre, les fabricants, pour le prix, pourraient mettre des meilleures caméras. Et ce qui est vrai, parce que maintenant, qu'on se tourne énormément vers le télétravail, c'est vrai que les caméras sur les Chromebooks sont pas de top qualité. Que j'espère vraiment dans les prochaines sorties, il y aurait des caméras un peu mieux, si ça serait bien. Mais moi, je trouvais son commentaire assez intéressant.
C'est également. C'est pas bête, effectivement, en condition de télétravail. Moi, franchement, j'ai jamais été très exigeant sur les caméras, à part effectivement quand t'as une caméra qui est tellement mauvaise que tout est flou et s'il n'y a pas d'intérêt, ça je ne dis pas. Ah. Mais avec les caméras que j'ai eu sur les anciens Chromebook, je trouvais que c'était suffisant parce qu'on n'est pas là, on va dire, pour faire des photos. Ce qui est bien, effectivement, c'est de pouvoir voir nos têtes. Après, quand on partage des moments en famille, je pense que c'est bien qu'on puisse voir, tiens, il a plus de barbe que d'habitude. j'en sais rien, mais je, personnellement, c'est mon avis, je ne suis pas très exigeant sur cette partie webcam.
Ouais. Bon, après, c'était vraiment pour le petit côté télétravail qui est de plus en plus présent. Et je prends l'exemple de mon C434. La caméra est pas ouf. Il faut beaucoup de lumière. S'il y a beaucoup de lumière, c'est passable. Mais dès qu'il y a un peu de pénombre ou autre, on voit plus rien. C'est très très pixelisé. Pas vraiment le truc le plus important en soi sur un Chromebook. Mais ça, il pourrait avoir un peu plus de. Ça serait bien que les constructeurs s'y attardent un petit peu plus. Ça serait cool, je trouve.
Je pense que ça va peut-être arriver avec le temps. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement des caméras un peu plus puissantes qui vont être abordables financièrement parce que tu auras une évolution des innovations sur des nouvelles caméras. Romain, on avait noté aussi une news relative à l'apparition de la poubelle. Alors, ça c'est marrant de dire ça comme ça, de la poubelle, de la fameuse corbeille, hein, aussi. Wow. Et de la future corbeille. Alors, c'est toujours pas disponible aujourd'hui, hein, mais c'est en cours de préparation. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Oui, bah, c'est en quelques lignes. Bon, après, je vais pas
Oui,
vous
ça
apprendre ce
va.
qu'est une corbeille sur un ordinateur ou autre. Mais du coup, c'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs de Chromebook et de Chrome OS en général, on n'a jamais eu de poubelle à proprement parler. Une fois que tu supprimes ton fichier, c'est bye bye. T'as pris ta décision, tu reviens plus en arrière. Si t'as fait une erreur,
C'est
c'est
ça.
tant pis pour toi. Du coup, on n'avait pas de présence de corbeille. Et donc là, comme tu disais, sur la version Canary, tu as une possibilité d'avoir une corbeille du coup, d'avoir, avant que ton dossier, ou en tout cas ton fichier, soit complètement supprimé, il se retrouve dans la corbeille et tu peux soit le restaurer à l'endroit d'origine où il était, soit le supprimer définitivement. Un peu ce que tu peux trouver sur Google Drive quand tu supprimes un fichier, il va dans la corbeille et au bout de 30 jours, soit il supprime, soit tu le fais manuellement. Mais là, il n'y avait pas vraiment sur le Chromebook en lui-même, sur les fichiers que tu pouvais supprimer à partir du Chromebook, il n'y avait pas de seconde chance. Et là, bah, il y aura l'arrivée. Alors, on pense que ça sera en version 89.
Ouais.
C'est pas sûr et certain, mais du coup, je pense, c'est moi qui ai écrit l'article, je pense que ça arriverait à ce moment-là. Ça devrait arriver à ce moment-là, et je trouve ça bien.
Bah écoute, ça reste toujours une sécurité, on va dire, supplémentaire. C'est-à-dire
Exactement.
si t'es persuadé pendant quelques secondes, eh bien que c'est important que tu jettes le truc, puis finalement tu te dis, ah non, 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 en fait j'ai fait une connerie. Eh ben c'est effectivement, ça reste rattrapable. Mais encore une fois, bon, je pense qu'effectivement, enfin, la corbeille reste un élément important d'un système d'exploitation classique. Et
Si on
c'est.
s'en passait, mais c'est vrai que le fait de l'avoir, c'est toujours une sécurité, comme tu dis. Donc,
Et pour les nouveaux utilisateurs, c'est toujours un repère. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vient de chez Windows ou de chez Mac, il se dit, bah tiens, je vois ça, ça me fait penser à un système d'exploitation. C'est pas un extraterrestre, un ovni. Mais du coup, alors très belle transition, mais d'abord juste, on va revoir un peu le chat parce que il y a eu quelques commentaires
il y a des
intéressants.
questions à ce
Alors,
niveau-là.
pour rappel, hein, à la fin du live, on va s'adonner un peu à discuter un peu avec vous sur le chat avec plaisir. Mais là, je notais Yanis qui posait la question, j'ai le. Alors, attends,
Yannick,
j'étais revenu. Il faut que, ah oui, tu penses quoi du Acer Chromebook R13 en 2021? Alors, il y a une chose à noter. Alors, déjà, le R13 date vraiment de beaucoup. En plus, il est sous Mediatek. J'ai jamais été. J'ai adoré, hein, parce que je passais du coup d'un 2 Go à un 4 Go avec du Mediatek. J'ai franchement adoré le R13. Maintenant, il est clairement dépassé. Tout en sachant que lorsque vous investissez dans un modèle de Chromebook, il faut aller vérifier quand est-ce que le modèle est officiellement sorti, à savoir la plateforme technique. C'est lié en fait aux mises à jour automatiques qui sont assurées par Google. Je m'explique. Lorsque un Chromebook sort, s'il sort aujourd'hui, maintenant, un Chromebook aura, ce qu'on va dire, c'est peut-être un peu de l'abus de langage, mais il aura une durée de vie de 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 8 ans, il y aura les mises à jour automatiques qui seront assurées par Google. Si on prend le cas du R13, qui a dû sortir, je ne sais plus exactement, peut-être en 2015, peut-être qu'il lui reste encore une année et demie de durée de vie, ou en tout cas de mise à jour automatique, ce qui signifie qu'on ne va plus avoir d'évolutions qui seront apportées par Google, et Google n'assurera plus vraiment la sécurité du Chromebook si entre-temps, eh bien, il y a des failles ou il y a des choses qui se trouvent. Parce que Google garantit effectivement, s'il y a un problème de grosses failles de sécurité, ils réagissent sous 48 heures, etc. Enfin, il y a une équipe dédiée sur le sujet. Mais voilà, enfin, Yanis, juste pour te répondre, c'est pour ça que je te dirais que non, le R13 n'est pas intéressant, à part si tu te dis, tu l'as, je sais rien, à 20 € et que tu peux effectivement l'utiliser pendant un an et demi, mais ce serait pas un bon investissement pour toi. Faudrait que tu regardes un peu effectivement les derniers Chromebooks qui sont sortis. Tout en sachant que le R13 a bénéficié d'une durée de mise à jour de 6 ans et demi. Ça fait à peu près un an que Google s'est décidé à, on bascule de 6,5 ans à 8 ans les mises à jour automatiques de Chrome OS. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Yannis. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Qu'en pensez-vous
Il y avait
quand
une
versus.
question un peu, bah, c'était assez bateau, mais c'est toujours sympa d'y répondre. C'est quelle webcam on utilise actuellement?
Oh,
Moi, de mon côté, c'est
bonne
la
question.
Logitech C920. Donc, forcément, vu qu'on passe par Google Meet, la qualité de mon côté n'est pas la plus optimale. Mais toi, je sais pas, tu utilises quoi comme caméra?
Alors moi j'ai pas la meilleure du marché pour être franc avec vous. J'ai investi dans une caméra, c'est la Oki. En fait, finalement, moi j'ai l'impression que le résultat est plutôt prof, mais comme dit Romain, en fait, le rendu via Google Meet est un peu compliqué. Il faut que peut-être je trouve une autre solution. Mais on est sur la caméra Oki là, qui est dans les. Je crois que ça doit être dans les 30 euros. Vraiment une caméra
D'accord, ah ouais,
Oki.
tu l'as pas payé cher, ouais.
Ah, pas du tout. Enfin, je sais pas si toi tu connais particulièrement la marque ou vous qui êtes sur le chat, mais Oki, je crois que c'est une marque chinoise si je dis pas de bêtises, mais qui a su s'imposer sur Amazon avec des produits électroniques vraiment enfin abordables. J'ai fait quelques tests de produits. Il y a même des adaptateurs compatibles USB type C pour Chromebook pour peu cher. Donc, je recommande très clairement fortement cette marque-là. Hein, pour des accessoires et encore une fois pour si vous cherchez une qualité un très bon rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça. Par rapport au système d'exploitation, hein, Chrome OS, on en parlait, hein, pour se retrouver avec la corbeille, etc. Ben, y a eu une annonce, ou en tout cas une fuite qui était très intéressante. On va basculer un peu sur le contenu et sur Twitter. On a effectivement Tom Warren, qui est un rédacteur de The Verge, qui a pu mettre la main sur Windows 10 X,
Ouais.
donc qui est cette. Alors, historiquement, c'est une version qui était destinée, si je dis pas de bêtises, à la Microsoft Surface. Normalement, c'est celle ou Duo. Hein, Duo, c'est celle à clapet. Puis finalement, il y a eu un revirement où ils se sont dit non, 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 on va mettre ça aussi sur du clamshell. Donc, ça veut dire de l'ordinateur portable classique à clapet. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà depuis quelques années, Windows commence à avoir un discours très orienté vers le cloud qui ressemble, mais je vous assure, à deux gouttes d'eau, enfin quasiment à deux gouttes d'eau, à ce que fait déjà Google. C'est ça qui est intéressant, c'est que Google a su, dès le départ, de manière native, eh bien, proposer des terminaux qui soient encore une fois orientés cloud. Qui va correspondre à notre avenir, hein. On y va, hein. Toutes les applications deviennent de plus en plus, beaucoup d'applications deviennent de plus en plus SaaS. On parlait du cloud gaming qui est maintenant, voilà, enfin, on n'a plus besoin d'avoir une console physique, on passe par des serveurs à distance grâce à Internet. Et on a maintenant le même discours du côté de Microsoft et surtout une version de Windows 10 eh ben, qui ressemble beaucoup à Chrome OS. Donc on va avoir au départ, au lancement de Windows 10, alors pour ceux qui regardent, vous voyez un peu la vidéo, mais quelque chose qui est un peu plus chiadé et un peu moins lourd que les fameux écrans bleus lorsque vous installez en fait le système d'exploitation Windows 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, lorsqu'on arrive sur le bureau, bizarrement, on n'a pas d'icône. Alors est-ce que Windows s'est dit, bon, on va faire un truc propre, on retire les icônes pour pas... Pour avoir en fait finalement cet effet un peu sympa, quoique non, parce que je dis des bêtises, ça vient de Tom Warren, donc il n'a peut-être pas installé d'icône, encore une fois, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'icône et ça ressemble beaucoup à Chrome OS. Il y a un bouton, une sorte de bouton démarrer, alors qui n'est pas un bouton démarrer, mais c'est une icône Windows qui est greffée en fait au deck avec les applications éplinguées, et quand on clique dessus, eh bien on arrive quand même sur quelque chose qui ressemble fortement au launcher d'applications qu'on a aujourd'hui sur Chrome OS, avec donc la barre de recherche des éléments sur le device ou bien sur le web. On a les applications et les websites. Donc quand on parle de website, on parle des sites web qu'on a épinglés et avec, je pense, cette orientation vers les PWA, donc les Progressive Web App, hein, dont on en a déjà souvent parlé ensemble, Romain, à ce sujet. Et les PWA, hein, c'est un standard qui est poussé par Google, hein.
Qui arrive,
C'est
ouais, il y
très...
en a de
Ah oui, il y en a de plus en plus. Et tout récemment, il y a YouTube, hein, qui est passé en PWA pour info.
plus. Ce que j'ai vu là récemment, on n'a pas parlé vraiment, mais oui, je l'ai vu aussi également.
C'est ça. Et j'attends de voir, hein, ce qu'ils vont garder en fait dans le cache. Et on a aussi les fichiers récemment utilisés. Donc là, on a une disposition, franchement, qui ressemble quand même pas mal à Chrome OS. Et si on va sur le côté droit du Chromebook, qu'est-ce qu'on découvre? Ah bah, eh bien, une partie. Hein, qui va regrouper l'ensemble des éléments, on va dire, de connexion et de connectivité, hein, et avec une notification par-dessus. Donc je suis désolé, pour moi, il y a quand même un fort rapprochement avec Chrome OS. On va être sur un Windows 10 X qui va être light et qui va y ressembler beaucoup, tout en sachant qu'en plus, on a Edge qui est basé maintenant
Sur
sur
Chromium.
Chromium. Sur Chromium, je sais pas ce que t'en penses, Robin, mais moi, pour moi, il y a quand même de fortes similitudes. Hein.
Oui, bah après j'irai pas jusqu'à dire, mais pour moi c'est vraiment du copier-coller quasiment. On retrouve vraiment tout ce qui fait Chrome OS, on le retrouve là. Après, ça veut dire qu'au moins Google, ce qu'il fait, c'est bien, parce que s'ils sont copiés, c'est en général que tu fais des bons choix et des belles choses. Donc,
C'est ça.
mais c'est vraiment similaire. Hein. On retrouve vraiment la patte Google et Chrome OS.
Ça,
C'est marrant.
c'est très important parce qu'effectivement, en fait, il confirme le modèle. Il confirme l'approche de Google dans l'environnement cloud. Cela dit, ça ne signifie pas que Windows ne va pas s'en sortir. Encore une fois, moi,
Ah
je
oui.
pense que Windows s'en sortira même peut-être très bien parce qu'ils ont un fort existant, je dirais, dans l'esprit des gens et dans les entreprises, et pourraient faire même la différence. Par contre, l'argument, évidemment, c'est de se dire, bah non, les cocos, chez Windows, chez Microsoft, pardon, c'est du bricolage. Chez Google, ça a été quand même nativement pensé, dès le départ pour servir les usages cloud.
Ah,
Donc,
j'attends de voir en tout cas.
comment? Qu'est-ce que tu disais?
Bah,
Excuse-moi,
j'attends de voir
Romain.
ce que ça va donner Windows 10 X, voir si c'est pas une version de Windows 10 S qui était très très limitée. Les jeux. Ça s'est pas très bien vendu parce que je sais qu'à l'époque je travaillais dans une boutique de multimédia et on vendait des Windows et les Windows 10 S, on essayait de les éviter au maximum parce que c'était très fermé, bloqué sur le Windows Store ou autre et les gens, bah, souvent on avait des retours, les gens ils se plaignaient ou autre. Donc à
Ouais.
voir, j'espère qu'il sera quand même un peu plus ouvert en gardant la patte qu'ils ont mis là en version un peu Chrome OS. J'attends de voir en fait tout ce que ça va donner. Je pense que ce sera vraiment pour toucher plus des, bah, par exemple des possesseurs de Chromebook, tu vois, essayer de récupérer un peu une part de marché là-dessus, ou peut-être même les entreprises ou l'éducation, vu que le Chromebook est assez présent au niveau de l'éducation. Et ce qui permettrait, parce que bah, c'est vrai que pour revenir juste à l'éducation, un Chromebook, c'est très simple pour d'avoir beaucoup de Chromebooks pour une école et de les gérer facilement. Quand tu as beaucoup de PC, il faut mettre tout à jour à chaque fois, un par un, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'ils essayent peut-être de ne pas se faire piquer le marché de la part de Google sur ce marché-là, en fait.
Bah
Après, c'est mon point de
c'est
vue.
non 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 mais et il est largement légitime. Moi je pense hein, bah, de toute façon là c'est de la réaction, c'est pas de la proaction,
C'est
c'est
ça.
pas de la... c'est vraiment de la réaction pure. Je pense pas qu'ils réussiront, on va dire, à récupérer des clients Google, parce que encore une fois, quand tu utilises le Chromebook, c'est difficile de revenir en arrière. Par contre, ça pourrait changer la donne pour des écoles ou bien des entreprises qui ont déjà un fort ancrage autour des solutions Google au niveau de leur système d'information. Et ça, effectivement, ça pourrait faire la différence. Donc c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut que Google, eh bien, s'active sur le sujet, encore plus de communication, machin, s'ils veulent en tout cas gagner face à Windows dans les années à venir, et encore une fois sur la partie terminaux à destination des usages cloud. Ah, c'était une belle phrase.
C'était beau pour finir, je
Il
trouve.
faut que je respire maintenant. Donc voilà pour ce qui est des actualités autour de Chromebook et Chrome OS. J'espère en tout cas que cette partie actu vous a bien plu. Je regarde un peu
Regarde un peu
le
le chat aussi
chat,
également.
et il y a des questions autour de Fuchsia. Alors Fuchsia, j'ai pas récemment suivi le sujet. Je ne sais pas s'il y a des grandes nouveautés, mais c'était effectivement. Alors encore une fois, c'était toujours des news à prendre avec des pincettes, hein, pour moi. Hein, mais effectivement, c'était le système d'exploitation de chez Google qui pouvait être responsive et adapté à n'importe quel terminal, donc mobile, tablette, laptop classique. Et j'en ai plus trop entendu parler. Je ne sais pas si toi, Romain, tu as des news ou sur le chat
Non, c'est
si.
vrai qu'un bah comme tu dis, à un moment on en entendait pas mal parler, ça devait remplacer Android ou autre, mais c'est vrai que là en ce moment c'est un peu en stand-by, bah pas en stand-by de leur côté, je pense qu'ils travaillent bien dessus, mais au niveau des news ou des infos, on n'a vraiment pas grand-chose, donc je pourrais pas trop en parler parce que je sais même pas ce qu'il y a eu de nouveautés depuis un an à peu près, donc là-dessus je suis un peu sans info.
Bah écoute, enfin, on suivra si vous en avez. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. Je vois Jean-Michel Dubois qui nous dit invitez-nous dans le Google Meet. Je vais éviter, sinon ça va être le bordel. Ça va être rapidement le bordel. Mais il faudrait peut-être organiser une petite soirée, vu qu'on est tous confinés, un verre autour du sujet des Chromebooks. Et je n'incite surtout pas à la consommation d'alcool, toujours boire avec bonne modération. Je lisais quoi d'autre?
Sombre et clair aussi, on en parle, il
Ah,
y a Romain qui
ça
parle
c'est
de
vrai,
ça.
Romain, ça c'est toujours pas en cours. Et je sais que sur la partie Canary ou bien développement, c'est des trucs qui sont un peu partiels. Ça veut dire
Ouais.
que tout n'est pas sombre, tout n'est pas bien adapté, il y a des trucs dans le paramètre qui sont sombres. Bref, c'est un peu. Je dirais que pour le moment, c'est un peu le bordel. Mais ça date d'il y a quelques semaines. Hein. Peut-être que ça a changé. J'ai pas fait particulièrement le test là-dessus. Et quelqu'un me parlait aussi du partage à proximité, donc le nearby sharing, qui est l'équivalent du AirDrop hein, côté Mac. C'est vrai que ça avance bien. Ça avance bien, mais j'ai pas de visibilité sur une quelconque sortie de la fonctionnalité sur Chrome OS, en tout cas sur l'environnement stable. Alors, c'est qui ce bonne modération? Ah, j'ai
De
pas compris
modération, je sais pas.
ta question, Dominique, mais effectivement, normalement, on est censé avoir un modérateur
On est censé. J'aime bien le mec, il est parti dormir en fait.
Qui s'appelle Michou et qui peut nous faire peut-être un coucou sur le chat, ce sera un plaisir, Michou. En tout cas, juste pour avancer un peu sur le live, donc on a terminé cette partie feature Chrome OS. Je pense que ce serait peut-être bien, très rapidement, on a
Si
dépassé quand
en
même
version light, on va dire.
en version un peu light, peut-être parler, Romain, de Google Stadia, du phénomène Google Stadia accompagné. Je dirais de Cyberpunk 2077, qui a fait beaucoup parler de lui, sur lequel, pour information, je stream encore sur Twitch, parce que voilà, de temps en temps, je fais des lives également. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus, Romain?
Bah après au niveau de Stadia, après
Bah,
toi
au
t'en
niveau de
parles très bien,
Stadia.
j'aime bien quand t'en parles, mais c'est vrai que basiquement
Ouais.
c'est du cloud gaming, donc c'est vraiment la solution propre que Google a sortie à peu près un an. C'était en novembre 2019 si je dis pas de bêtises. Et bah moi je suis un très très gros joueur de Stadia, je fais que ça quasiment. Après, vraiment pour expliquer plus en détail, j'aime bien quand toi t'expliques. Vraiment, c'est pas pour que j'ai pas envie de te refiler le bébé, mais j'aime bien quand tu expliques qu'est-ce que c'est Google Stadia. Tu le fais mieux que
Alors,
moi.
je te remercie pour ta confiance, Romain. Du coup, je vais parler avec les grands mots. Google Stadia, qu'est-ce que c'est, très grossièrement? C'est du cloud gaming. Donc, vous savez ce que c'est que du cloud computing, c'est-à-dire que vous déportez un ordinateur sur des serveurs et vous y accédez à partir d'un client léger, qui peut être aussi un Chromebook, hein, avec Citrix, etc. Et bien, le cloud gaming, vous vous dites que ce n'est pas la machine qui exécute les jeux vidéo, mais c'est un serveur à distance et il vous faut forcément eh bien une connexion internet du plus gros débit de la fibre en l'occurrence. Et encore, à la limite, il faudrait du 15 mégas, si je dis pas de bêtises, pour faire tourner du 720p sur Stadia. Mais en tout cas, je vous recommande d'avoir la fibre pour avoir du 1080p ou bien de la 4K. Du coup, un Chromebook est une solution ultra pertinente pour faire du cloud gaming. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure d'un ordinateur, d'un Chromebook, 4 Go de RAM, Intel Celeron, ça fait tourner Stadia. Parce que vous allez utiliser votre navigateur web eh bien pour accéder en fait au serveur de Google qui eux vont exécuter des jeux. Et on évoquait du coup le sujet un peu Cyberpunk 2077, qui est un jeu très très gourmand, hein, qui a fait polémique hein, parce qu'ils se sont complètement ratés sur PS4 et Xbox One en balançant en fait des versions totalement buggé. Alors cela n'empêche hein, que sur Stadia aussi on a des bugs, mais on n'a pas de vrais bugs graphiques. On arrive à faire tourner le jeu en 4K. On n'a pas de ray tracing sur Stadia encore, mais je peux vous dire, en tout cas moi j'y joue sur Twitch, c'est un pur bonheur. Bon après Cyberpunk, l'histoire est magnifique, elle est super. Par contre, on a des bugs bah, qui gâchent un peu l'expérience utilisateur. Je vais pas vous mentir, mais regardez les images là en live. Hein, je les diffuse hein, une vidéo un peu un trailer de Cyberpunk. Et bien cette qualité graphique que vous voyez, c'est celle que vous pouvez voir sur Stadia. Et
C'est ça.
je, alors peut-être qu'elle est un tout petit peu plus embellie, mais moi il me semble que c'est celle-là qu'on a sur
Bah, sur
Stadia. Donc
Stadia, on s'approche d'une. Bah, on n'est pas sur la version PC, RTX ou autre, qui est vraiment la meilleure version, ce qui est normal. Mais on est vraiment entre les deux, entre une version PC la plus haute et une version Xbox One X plutôt, série X plutôt. Et non, vraiment très très beau. Et comme tu dis, les bugs, en fait, les bugs sont pas liés à Stadia, sont liés au jeu en lui-même. Et
oui.
donc ça, on peut rien y faire. C'est pas Stadia qui a décidé de ces bugs-là. Mais moi, par exemple, je suis à plus de 120 heures de jeu
Ah,
sur la version Stadia.
c'est beaucoup,
Et
hein.
j'adore. J'adore, oui, je passe beaucoup de temps dessus. C'est pour ça que j'écris plus d'articles maintenant. Il y
Ah,
a des priorités dans la vie, c'est Cyberpunk.
t'en as eu marre. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant de noter, c'est que ce cyberpunk a été En gros, vous pouviez l'acquérir sur Stadia. Alors, lorsque vous le payez sur Stadia, donc à un prix de 60 euros, vous aviez la manette plus le Chromecast qui était offert gratuitement. Donc,
D'accord.
cette offre
Est-ce que
est là.
derrière moi?
Pardon, attends, on va te mettre sur la
Pas du
caméra.
tout, elle est juste
Ah,
derrière et
bah,
c'est
juste
l'offre
au-dessus,
que
ouais.
j'ai eue par rapport à l'achat juste du jeu, 60 euros. J'avais le, bah, du coup, comme tu dirais, le pack première édition qui était offert avec l'achat du jeu
Et
ou la précommande
si
plutôt.
tu n'avais pas en fait ce pack-là, ça t'aurait coûté environ 160 euros, enfin, et des bananes.
C'est ça.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup, ça a permis en fait d'acquérir de nouveaux joueurs via une offre qui est attractive. Mais derrière, surtout, il y a plein de joueurs qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas eu dès le premier jour, effectivement, enfin, je crois qu'il y a eu un décalage au niveau des téléchargements pour les versions digitales sur PS4 et sur Xbox, la possibilité de jouer immédiatement, ce qui était possible de faire avec Stadia, hein, puisqu'on est encore une fois sur la transmission d'un flux vidéo via un serveur. Bah, en fait, à partir du moment où le jeu il est lancé, bah, vous appuyez sur play et vous jouez, quoi. Donc
C'est ça.
ça c'est l'expérience, elle est assez assez folle. Et effectivement, du coup, on a beaucoup de ça, Stadia a fait beaucoup parler de lui grâce à Cyberpunk, mais dans le sens positif, et comme réelle solution, comme réelle alternative de jeux vidéo. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, je lisais des articles, ils te disaient, c'est quoi la config pour le mieux jouer en fait à Cyberpunk? Eh bien, c'est soit un PC que tu vas custom avec la dernière RTX, mais bon, le truc hyper coûteux, soit des plateformes de cloud gaming comme Stadia ou bien GeForce Now. GeForce Now, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça,
Ouais, c'est ça.
GeForce Now.
À chaque fois, je me trompe. Donc,
Tu l'as bien dit.
effectivement, on voulait un peu vous partager rapidement Stadia et également ce retour d'expérience autour de Cyberpunk qui, je pense, est intéressant et qui légitime encore plus le Chromebook comme une plateforme de jeux vidéo. Hein. On a beaucoup de fausses idées reçues concernant les Chromebooks, comme l'impossibilité de faire du offline, mais également ne pas pouvoir jouer sur Chromebook. Bah, si, vous pouvez le faire avec le Google Play Store, mais également avec Google Stadia, et jouer en plus à des jeux triple A, donc qui sont très très
C'est ça.
très 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 très, très gourmands.
Mais juste pour finir avec Stadia,
Ouais.
ça a vraiment, pour moi, après c'est vraiment personnel, ça m'a changé ma façon de jouer aux jeux vidéo.
Ouais.
Et la façon, c'est vrai que j'avais un peu, quand tu vieillis, t'as tendance à un peu avoir pas marre des jeux vidéo, mais t'es un peu lassé. Et là, j'ai redécouvert un peu l'envie de jouer. Et rien que sur le fait, bah, aussi, je sais pas si t'en as parlé, j'ai peut-être pas fait attention. Et si c'est le cas, bah, je m'en excuse, mais tu
Bravo.
peux jouer sur vraiment plusieurs supports. Je peux commencer une partie sur mon ordinateur, aller sur le Chromebook
Oui,
après,
j'en ai pas
switcher
parlé.
sur mon téléphone et garder la même partie sans qu'il y ait de coupure ou autre, ou aller après sur la télévision, sur le Chromecast ou autre.
C'est
Et vraiment,
impressionnant.
cette facilité-là, ça, des fois, t'as envie, quand tu veux jouer aux jeux vidéo, c'est bête, tu te dis, oh, j'ai la flemme de lancer la console ou de l'allumer. Là, c'est vraiment tellement rapide que tu redécouvres un peu l'envie de jouer. En
Et
tout cas, c'est mon
c'est
exemple.
bien. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu viens de dire. Tu viens de dire effectivement que tu as la flemme d'allumer ton gros PC pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. On revient un peu. Pardon, pas ton PC, mais bon, en tout cas ta console, mais on revient un peu. Ça rejoint un peu la rapidité du Chromebook. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu as la flemme d'allumer ton PC sur Windows pour aller surfer sur le web, autant prendre ton Chromebook pour aller très vite. Donc ça, je trouve ça très intéressant comme analogie. Et ensuite, il y a une deuxième chose que tu as dit qui était intéressante, c'est effectivement le multiplateforme. Bah, de toute façon, tout passe par le navigateur. Donc tu peux passer du navigateur Chrome sur un Raspberry Pi. J'ai pas fait le test, mais je pense que ça doit fonctionner, à ton Chromebook, mais également à ton smartphone, tout en sachant que tu peux jouer en 4G, et avec l'avènement de la 5G, je
Ça
pense que
sera
ça va
encore
le
mieux.
faire très très mal, mais on espère qu'on aura par contre des forfaits sans limitation au niveau du débit. Hein. C'est-à-dire qu'à une
Ouais,
certaine limite, à une
ça
certaine
va
consommation,
partir.
qu'on ne tombe pas en slow débit, ce qui pourrait du coup complètement gâcher l'expérience utilisateur. Donc on est vers la fin de l'émission, vers la fin de ce premier épisode. On va dire, couvert un peu tous les sujets qu'on voulait partager avec vous. Donc ça va être un peu le moment d'échange avec le chat. N'hésitez pas, bah, à nous dire en live. C'est peut-être le moment, ou peut-être a posteriori de ce live, nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a été fluide? Est-ce qu'on a bien échangé, déjà Romain et moi? Avec vous, je sais que vous allez me dire non, c'est pas bien.
Oui, on va essayer
Mais
un peu plus d'améliorer ça la
on
prochaine
va
fois.
on va s'améliorer, et je sens que c'est le Doom qui va nous critiquer là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à partager. À partager. Qu'est-ce que nous
On est tout.
dit Alors, ça donne quoi au niveau lag, le Doom? Bah écoute, si tu as la fibre optique, c'est
T'es tranquille.
ça tourne, t'es tranquille. C'est-à-dire que tu n'as pas de lag en théorie. Moi, j'ai subi des lags parce que j'ai des problèmes de certaines fois de Wi-Fi. Ça, c'est un autre sujet, donc c'est-à-dire c'est lié à mon réseau local. Mais en
Ok.
tout cas, j'ai pas eu de lag en particulier.
En fait, vraiment, t'as beau avoir une très très bonne co sur Stadia, il faut une co plutôt qui est stable. T'as beau avoir, je sais pas, 500 gigas, si t'as pas une co qui est stable, c'est vrai que tu
Oui.
peux avoir des petits lags. Après, moi personnellement, j'arrive à streamer le jeu sur Twitch et jouer. Donc, je suis connecté, j'envoie du flux sur Twitch en même temps, bah, le flux de Stadia. Et à côté de ça, j'ai une personne qui joue aussi à Stadia en même temps et j'ai aucun souci. Je suis juste sur une connexion 100 mégas, même pas de la vraie fibre, c'est de la coaxiale de SFR et j'ai pas de souci. Donc, vraiment, non, c'est au niveau du cloud gaming pour moi, et j'ai testé d'autres services. Stadia, c'est ce qui est le plus développé, le mieux, celui qui gère le mieux la connexion, je trouve. Même si tu as une super connexion, il y a des
Ouais.
personnes en ADSL que je connais qui arrivent à y jouer. Alors forcément, ils seront peut-être pas en 1080p tout le temps, ça dépend du jeu, mais au niveau de la fluidité et du côté assez réactif, j'ai pas de input lag par exemple. Donc c'est-à-dire quand tu appuies sur la touche, le temps de réaction
Oui.
que ça arrive à ton écran, je le ressens quasi pas, voire jamais. Je me rends plus compte des fois que je suis sur Stadia, des fois j'ai l'impression que je suis directement sur mon PC, que j'ai installé le jeu. Donc
C'est
non,
ça
vraiment,
qui est
Stadia au top pour moi
assez
après.
impressionnant, et Stadia a toujours été, même par les journalistes, a été validé techniquement. À
Ouais,
chaque fois, ils disaient techniquement, le truc est stable, c'est bien, mais allez, peut-être les premiers jours de sortie, ça, il y avait quelques petits soucis, mais encore une fois, c'est peut-être, encore une fois, ils essaient d'équilibrer et de faire en sorte que tout fonctionne bien. La grosse critique qui a été liée à Stadia, c'est évidemment son catalogue
c'est ça.
qui était pauvre en triple A, même en jeu dans l'absolu, mais maintenant la donne est quand même en train de changer. On
Ça
a
change.
Cyberpunk, on a un partenariat avec Ubisoft, donc on a le dernier Assassin's Creed Valhalla qui est sorti.
On a quasi tous les Assassin's Creed maintenant, hein. De
On
Unity
a...
jusqu'au dernier, on les a tous.
Ah bah écoute, merci, tu le confirmes. Donc je pense que non, non, Stadia a de l'avenir parce que forcément on s'oriente vers du cloud. Donc je dirais Google va être très bien positionné sur le sujet. Et Romain Simon, je sais que lui, il nous avait dit, quand j'étais sur Twitch, qu'il tournait, je crois, avec une co très très faible. Et il arrivait quand même à jouer, si je ne m'abuse. Romain Simon, déclare-toi sur le chat.
Ah, l'autre Romain, je croyais que tu me parlais à moi, c'est pour ça que je me dis, bah,
Non,
Romain,
Romain Simon, ouais, sur le chat.
il n'a pas dit. Du
Qu'est-ce
coup, au niveau
qu'on...
des questions.
Alors, Yanis, j'ai regardé sur le R13, les mises à jour sont assurées jusqu'à juin 2024. C'est peut-être possible que Google, en fait, ait réallongé cette durée de vie sur certains modèles. On est en 2020, donc tu as encore 4 ans. Donc, effectivement, ça pourrait être intéressant. Par contre, je suis curieux de savoir à quel prix tu le trouves, le R13. Juste
Et
pour...
j'aimerais bien savoir aussi s'ils prolongeront pour le C434, vu que c'est celui-là que j'ai. Je vois que le R13 le font, peut-être ils le font pour
Alors,
d'autres
toi,
modules.
le... Ouais, c'est une très bonne question. Il y a moyen. Le tien, il est récent de 2 ans, je
C'est
crois,
récent, ouais.
hein, si je dis pas
Ouais,
de
2 ans,
bêtises.
c'est ça. Ouais. Il va avoir 2 ans. Je crois qu'il est sorti en 2019 vers le mois de mai ou un truc comme ça. Donc, ouais.
Ouais. Alors, on a Jean-Michel Dubois qui nous dit d'autres sujets à traiter à l'avenir, application Google, extension Chrome, Google Fausto et stockage. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, ça peut être des sujets. Encore une fois, on est ouvert aux discussions. Moi, j'ai déjà des sujets un peu en tête et j'adorerais pouvoir inviter des gens. Hein, des
Des
gens,
gens.
pourquoi pas, des gens qui sont liés au métier, hein, on va dire de la distribution, pourquoi pas des éditeurs, des constructeurs. Donc j'ai plein d'idées en tête. Donc on va essayer de voir un peu tout ça. Dominique Emery, je te connais, bienvenue sur le live. Même si tu arrives effectivement sur la fin, n'hésite pas à regarder le replay ou à l'écouter en podcast. Il faut juste que
Ouais.
je vois comment
Faut aller
gérer tout
sous la
ça.
douche. En écoutant le podcast, c'est pas mal quand même, je trouve.
Ouais, bah écoute, pourquoi pas, c'est un usage, hein?
On
C'est un usage, comme j'aime bien dire. Romain Simon qui nous confirme effectivement en 18 mégas et je joue en 720p sans problème. Donc voilà, enfin, on a des cos qui sont
d'autres
assez
personnes.
réduites. On a pas mal de messages d'encouragement. Je vous remercie encore une fois tous parce que c'était vraiment pas évident. Moi, je m'étais dit, j'aime bien me lancer des challenges, hein, j'avais annoncé ça en vidéo, et c'était l'occasion de le faire pour cette année 2021, hein, pour
C'est
ceux
la
qui
nouvelle
ont...
résolution, on va dire, de
C'est
2021.
ça, c'est cette nouvelle résolution, et j'espère que ça durera. Donc si vous validez, on va dire, ce premier épisode, bah, on va en préparer un second pour le mois prochain. Donc vous nous donnez en fait finalement du boulot, quoi. C'est
Ouais.
ce que je comprends.
Moi, je vais
Alors,
faire pour jouer à Cyberpunk, moi, tout, pendant tout ce temps.
c'est ça. Comment on va faire pour jouer aux jeux vidéo, à travailler sur notre activité principale et en plus, alors putain, en plus, il y a Chromebook Live, il y a Tech Live et maintenant il y a le chat et l'émission Chromebook en live. Donc,
Commence à faire. Hein.
ça commence à faire quand même beaucoup à retrouver sur Google Podcast. Oui, tout à fait. Ça veut dire que je vais me débrouiller pour que ce soit sur les différentes plateformes de diffusion connues. Hein. Je pense que je vais passer par la plateforme Anchor. C'est ce que je m'étais un peu renseigné sur le sujet. Sur Chromebook, on peut développer sur Visual Studio Code. Alors oui, Matt, tu peux. Tout va dépendre en fait de ton architecture, si tu es sur de l'ARM, si je dis pas de bêtises. Sur du MediaTek, tu as des problèmes. Sur du MediaTek, tu as des problèmes pour installer ce genre d'application. Par contre, sur de l'Intel, tu n'as aucun souci. Visual Code, c'est une bonne question. Moi, j'ai installé Sublime Text. Je crois avoir installé Visual Studio Code. Hein, et je ne sais plus exactement. Je ne sais vraiment pas. Oh hey, Romain, là,
Et
tu nous gâtes.
là, il nous gâte vraiment.
Ah
Merci Romain.
punaise, franchement merci. Encore une fois, on s'attend pas à ce genre de choses, encore une
Non,
fois.
pas du tout, on n'y a même pas réfléchi.
Le Doom, il faudrait évoquer moins de thèmes dans les lives et échanger au fur et à mesure, mais c'était intéressant et dense. Ah écoute, je suis partisan pour échanger, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une émission qui soit un peu structurée, donc avec cette partie un peu chat à la fin. Mais par contre, on peut imaginer faire un live, on va dire, un peu bonus, dans lequel en fait on ferait que du chat, quoi. Ou peut-être, Romain, on serait un peu en mode discussion totalement libre,
Ouais.
déstructuré, et on partagerait avec vous peut-être des news si vous en avez aussi à partager avec nous des questions. Ça pourrait être effectivement une alternative.
Ouais, non, mais ça peut être pas mal. Ou juste on fixe deux, trois thèmes et après vraiment on prend toutes les idées du chat et on en discute tous ensemble. Ou là ça peut être vraiment mieux au niveau de l'échange. C'est vrai
Ouais.
qu'on a une trame de base comme Fred dit où on suit, c'est l'émission. Après on essaye de faire des coupures, de vous lire, mais c'est vrai que c'est pas simple de faire les deux vraiment.
Sachant qu'encore une fois, je le rappelle, hein, l'objectif de l'émission, c'est vraiment de vous faire un petit condensé d'informations. C'est pour ça que j'aime bien dire que voilà, là, l'émission, c'est vraiment lié aux actualités et pourquoi pas une thématique en particulier. Par contre, on peut réfléchir à d'autres formats. Plus d'échanges, oui. Ouais, une sorte de FAQ. Oui, pourquoi pas. Ça veut dire que si effectivement vous avez des questions. Ah, c'est une bonne idée, Matt. Ça pourrait être intéressant. Ça veut dire que si vous avez des questions, on peut envisager de créer un live ou en tout cas de planifier un live. Vous nous envoyez plein de questions, hein, et on essaie de voir pour échanger sur ces différentes questions. Par contre, il faut que vous soyez là, hein, parce que si c'est pour répondre et qu'il n'y a personne, ou en tout cas
Ça
pas les intéresser, il y a plus trop d'intérêt. Voilà
y a
là-dessus.
la
C'est
personne
ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que moi, je Twitch. Je fais du Twitch, donc je fais du streaming de jeux vidéo Stadia sur Twitch. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout? Parce que je ne veux pas vous embêter non plus là-dessus ou en tout cas sur le jeu vidéo. Eh bien que je stream sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait de découvrir du coup Google Stadia en live, même faire des streams en collaboration du coup avec Romain à deux sur des jeux. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt gamer? Est-ce que ce sujet Stadia pourrait vous intéresser?
Tu crois qu'ils vont te répondre là?
Non, bah,
Genre,
faut attendre.
t'attends qu'ils te répondent, genre, bah, j'entends pas de voix, c'est
Non, mais
bizarre ça.
comme disait attends, Jean-Michel Dubois, je crois, hein, faut vous inviter tous
C'est
sur le
ça, il
Google
faut qu'on
Meet.
fasse un truc complet où tout le monde est là en train de parler
Voilà,
et
comme
tout
ça, t'as pas de lag.
le monde
On peut en effet proposer des thèmes avant. Vous suivez un peu le site Chromebook Live. Ouais.
Ouais, voilà.
Non, non, c'est noté le dos, mais.
Piocher, après c'est vrai qu'on priorise des thèmes qu'on a envie de parler.
Voilà.
Mais après on peut faire des variantes et être un peu plus cool et moins directif dans notre structure d'émissions et un peu plus partir pas n'importe où, mais partir un peu plus en live. En live même.
Ouais, en live. Gaming on live. Les jeux mouillent et non. Ah bah ok, bon j'ai compris.
Oui, non.
Le Doom, je te suis également sur Twitch. Je crois savoir qui tu es, le Doom. Le Doom masqué, hein. Pourquoi pas? Mais je regarde plutôt du jeu rétro sur YouTube. Ah bah écoute, j'aime bien aussi les jeux rétro et ça m'arrive effectivement d'en regarder sur YouTube aussi. Je suis un nostalgique, je dirais, des consoles type Super Nintendo, N64 et même le PS1. Je sais pas toi, Romain, si t'as été
Moi,
bercé par ces consoles-là,
N64, je l'ai
mais...
encore dans mes placards et j'adore. C'était la version Pikachu que j'avais. Mais
Ouais.
sinon, j'ai encore toutes mes Game Boy, la première Game Boy, la Fat, j'ai la
Ah
Game
là
Boy
là, je l'ai
Color Pikachu.
encore.
Donc, ouais, j'ai gardé quand même pas mal de petites consoles rétro, ce qui est étonnant puisque maintenant je suis vraiment à fond dans le cloud gaming, mais c'est vrai que j'ai
Oui.
gardé ce petit côté nostalgie sur mes anciennes consoles quand j'étais plus jeune.
Bah écoute, ouais, ça, je pense que ça fait partie un peu de nos personnalités. Et moi, je sais pas, j'imagine demain montrer à mes enfants comment était finalement l'époque des anciennes consoles. Même si aujourd'hui, tu as quand même des constructeurs chinois qui arrivent à faire, pour peu cher, hein, t'en trouves sur AliExpress, des petits trucs à 30 euros qui arrivent à tout émuler. Alors évidemment, c'est pas très légal, mais...
Pas très, pas très.
C'est ça. Et pourquoi pas une chaîne Chromebook Live Gaming? Alors j'y ai pensé, hein, j'y ai pensé, mais ça va faire beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que créer une chaîne Chromebook Live Gaming signifie que je vais pas avoir votre communauté à vous, ça va être compliqué. Moi je préfère encore m'investir vraiment sur Tech Live. Je trouve ça important. Alors je suis également sur Twitch, ça fait monologue. Oui, sur LinkedIn, le Doom. Oui, j'ai fait le lien. Fais des sondages via ton blog, Fred, pour ce genre de questions. Tout à fait, tu as raison. Je sais pas si je peux faire des sondages, par contre, sur YouTube. Si, sur YouTube, je peux le faire aussi, excusez-moi. J'ai la capacité, via les questions de communauté, je crois. En voyant tes vidéos sur tous les Chromebooks que tu as présentés, qui ne sont pas tous donnés, tu as raison. Je me demande comment tu fais pour financer ces Chromebooks. Alors, ce n'est pas des financements, vous vous doutez bien. J'ai pas la possibilité de pouvoir tout m'acheter, et même, je pense pas que je m'achèterais. Il y a un moment. Et bon, il y a des sélections de Chromebook, mais je travaille avec certains constructeurs. Mon métier fait que je suis en contact avec les professionnels du métier de la distribution et je peux effectivement avoir des prêts dans le cadre de mon travail et j'en profite en fait pour les présenter en vidéo parce que du coup c'est une passion que j'ai et j'ai envie de la partager. Je pense que c'est intéressant et je considère que le Chromebook fait partie des innovations d'avenir et donc c'est effectivement intéressant de voilà, enfin pour répondre à ta question Yanis. Ah, les Famiclone, tout à fait. C'est pas les Famicom, c'est les Famicom, pardon, c'est les Famiclone, tout à fait. Pas mal le jeu de mots. Écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour de ce premier épisode. Je suis vraiment très surpris et vraiment très mais agréablement surpris hein, de vous avoir tous. On est arrivé, je sais pas, à 50 spectateurs, il me semble, en pic. J'ai pas trop fait attention parce que je parle beaucoup et on était très ancrés sur les différents sujets. Mais encore une fois, merci pour votre présence. Je
Merci.
vois que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si vous avez des remarques à faire par rapport à ce stream. Les messages d'encouragement, on en a eu, donc je pense qu'on va relancer un deuxième épisode le mois prochain. En général, on va faire ça en fin de mois, comme ça on prend un peu le condensé des infos du mois et on vous livre un peu tout ça. Merci encore une fois, toi aussi, Romain.
Bah
Pour
merci à toi, franchement,
ta
c'était cool.
participation. J'espère que tu seras là sur le deuxième épisode.
On croise les doigts. Je pense
Non, mais
qu'il
si
n'y aura pas de
effectivement
raison.
tu as du temps et si tu veux effectivement t'impliquer sur le sujet, mais en tout cas,
Bah,
voilà.
faut voir si les personnes veulent de moi aussi. Ça tombe,
Ah, bah
ils veulent
si.
que toi et toi
Non.
et toi. Ça, je sais
Non,
pas.
non, non. Ils te veulent toi aussi. Ils te veulent toi aussi avec la boîte de la manette Stadia
Ah
au-dessus et du Lego PlayStation parce que toi au moins tu as de la déco derrière.
ouais, ça fait pas longtemps, hein, je me suis appliqué. C'est après ça, je le rends. Hein, c'est genre après la fin du live, je dois tout remballer et ramener à la personne
Bon,
À qui ça
en fait, je vous l'ai pas dit, mais je lui ai balancé tous ses objets et moi, dès qu'il finit, je les remets en fait juste
appartient?
derrière.
C'est ça que je
Tiens, le
récupère.
truc totalement incompréhensible, totalement déconnant, quoi. Tu mettras à jour ta liste les meilleurs Chromebooks sur le blog, bien sûr, je la
Parlé
mettrai.
hier, mort de rire en plus,
Oh,
ça,
on en
on a
Romain, j'en suis conscient. C'est toujours un sujet un peu délicat parce que je veux pas faire comme les autres blogueurs où en fait là ils poussent forcément les liens Amazon sur les derniers trucs et ils ont même pas testé les machines. Moi en fait j'attends de finir de tester certaines machines avant de me prononcer et de dire tiens, j'ai 3 à 5 Chromebooks que j'ai testés, que j'ai appréciés. Donc voilà, enfin, c'est juste pour ça. Et du coup, à chaque fois, bah, je me dis, est-ce que je suis en 2019? Est-ce que je suis en 2020? Maintenant, est-ce que je suis en 2020 ou en 2021? Comment je l'annonce, etc. Donc c'est un peu chiant, mais en tout cas, ouais, je vais m'y atteler dans les jours prochains, dès que j'aurai terminé de vous publier deux prochaines vidéos sur des Chromebooks. Un que vous connaissez probablement, que vous avez déjà vu, hein, parce que je suis un peu en retard sur ce Chromebook-là. Et par contre, un autre qui, je pense, sera un test un peu exclusif en France. On est sur un modèle qui est très, très haut de gamme. Bah, écoutez, merci encore une fois pour vos messages d'encouragement. Je vois que vous insistez. C'est bien d'avoir des échanges entre intervenants quand c'est possible. Ça rajoute de la dynamique. Yes, merci, Matt, pour tes...
reviendrai
Ah, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que je n'avais pas eu de tes nouvelles, Matt. Merci pour ton application et ta présence. Et encore une fois, merci à tous. On va clôturer ce premier épisode. Je vous propose. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Romain, pour
alors
terminer?
moi bah basiquement vraiment sur les deux réseaux où je suis le plus actif c'est Twitter donc c'est @istfr59. Et du coup, je suis beaucoup sur Twitch aussi, où c'est juste istfr. Après, le reste, vraiment, je suis moins actif, donc je préfère pas les donner. Mais vraiment, les deux, le réseau où on peut venir me parler facilement, vous envoyer un MP ou autre, basiquement, c'est sur istfr59.
Ah ouais,
Sur
et sur Chromebook Live, dans la rédaction d'articles, vous pouvez toujours
exactement dans les
le
commentaires ou autre.
contacter dans les commentaires. Pour ce qui est de moi, je pense que bah, pour ceux qui sont présents, je suis sur ChromebookLive.com, également sur YouTube, mais aussi sur Twitch. C'est le pseudonyme MasterFredFR, hein, parce qu'il faut, il faut, il faut maîtriser le terrain du gaming. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci encore pour votre présence et on vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye.
Hello tout le monde.